Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de LCLE, le casque et l'enclume, un casque et l'enclume un peu spécial avec un format que vous allez retrouver assez souvent dans vos oreilles, le top 5 all time 2. Ben voilà, aujourd'hui, je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite, on va d'abord saluer les chroniqueurs préférés de LCLE. Pierre Mogin, ça va ?
Ça va, ça va.
La ligne de métro, c'est bon ça...
Il y a des problèmes toujours. Enfin,
c'est l'aventure. Tu sais, on a tous des problèmes. Ça, c'est important de le dire quand même en débutant ce nouveau numéro du podcast de LCLE. Stéphane, hello.
Salut Jean.
Ça va bien ?
Ça va. Écoute, moi, j'ai pas de problème de métro. J'habite ici.
Ça, c'est quand même. On a moins de problèmes de bus et de métro quand on est chez l'habitant.
Ouais, non, ça, c'est. T'as plus de métro, donc t'as pas le choix.
Complètement d'accord. Alors, à l'occasion, on ne consacrera pas de podcast spécialement à Sifu, la dernière production de Slow Clap, le studio parisien. Mais ce jeu de kung-fu nous a tapé dans l'œil, littéralement. Et donc, on a décidé, littéralement, de réaliser un top 5 des meilleurs jeux d'arts martiaux. On a eu beaucoup de mal à définir, à faire rentrer c'est quoi les jeux d'arts martiaux. Est-ce qu'on considère que les jeux de ninja et de samouraï sont des jeux d'arts martiaux. Stéphane, on a eu du mal.
Les ninjas un peu plus que les samouraïs, j'ai envie de dire. Mais
à regarder de plus près, ils ont aussi des arts martiaux.
Mais il y a quand même le kenjutsu, hein, ça marche.
Ouais, ça marche. Ouais. Donc voilà, alors on gardera Ghost of Tsushima, on fera un spécial, je pense un top 5 all-time des jeux de samouraïs et de ninjas. Comme ça permettra effectivement de s'éclater un peu plus sur ceux. D'ailleurs, si vous avez des idées de top 5, à vous qui nous écoutez, vous pouvez vous mettre ça en mention. Sur YouTube, sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à faire un commentaire, à lâcher vos commentaires, à nous dire tiens, on aimerait bien un top 5 là-dessus, un top 5. On se fera un plaisir si la proposition est bonne, oui.
Et en parlant de jeux de samouraï, on a parlé de Trek to Yomi la dernière fois. Oui. Mm-hmm. Donc voilà, c'est ce qui existe dans le genre, quoi.
Exactement. Donc ce top 5 all-time des jeux d'arts martiaux, vous allez voir, il y a quand même pas mal de surprises. Alain, aujourd'hui, est à la réalisation, comme toujours et comme d'habitude, il est impeccable. Et alors, je ne sais pas, lui, on ne lui a pas demandé quels étaient ses jeux favoris, mais.
Il n'a pas de micro, donc il a une tête à en jouer beaucoup.
Et nous aussi, d'ailleurs, parce que vous allez voir qu'on en a joué pas mal. D'ailleurs, on en a joué à tel point qu'on a fait des mentions honorables. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans le top 5. Oui, c'est vrai, ils sont aux portes ou un peu loin, mais on aime quand même les citer. Pierre, t'as quoi, toi, dans tes mentions honorables ?
J'ai un petit God End qui rappellera des bons souvenirs.
C'était quoi God End, Samson?
C'était un jeu de Clover à l'époque, donc les anciens, ex-Platinum, qui sont devenus Platinum Games après.
C'est vrai.
Et qui était un jeu où on pouvait composer soi-même ses combos. C'était assez
éclaté, ouais. Ça.
C'était vraiment très série B, en fait, où c'était un espèce de gros mec musculeux qui tapait littéralement des espèces d'ennemis, un mélange entre Mad Max et des espèces de dérives complètement graphiques hallucinantes. Et effectivement, chaque combo était composé directement en fait par le joueur. On avait des bases de donc coup de poing, coup de pied, coup de pied retourné, machin, et en fait on prenait chaque élément de ces coups là et en fait on faisait des combos littéralement, c'est à dire qu'on avait une sorte de vraiment de fichier Excel, quoi, littéralement, où on mettait différents coups et on créait soi-même en fait ces enchaînements.
Alors, tu as mis une célèbre saga aussi dans tes mentions honorables.
Julien
Inverno, qui doit nous écouter, même s'il n'est plus parmi nous à Paris, en région parisienne. Donc on le salue et qui est fan de cette saga. Je pense que tu t'es fait un ennemi tout de suite.
Il est loin maintenant. Donc ça va,
il est loin. Le coup sera moins fort.
C'est Yakuza. Alors je l'ai pas mis dans mon top 5.
Les Yakuza sont quand même très très bien.
C'est des jeux que j'adore. Hein, mais c'est en fait je trouve ça limite évident. Parce que c'est littéralement le fond en fait de ces jeux-là. C'est, alors il y a l'exploration, il y a la narration qui, alors c'est des jeux d'ailleurs très narratifs et passionnants en termes d'écriture et même de l'histoire globale. Tout se tient, les personnages sont mémorables, donc il y a vraiment un vrai travail là-dessus. mais c'est des jeux où vraiment le système de combat, c'est une sorte de mélange beat'em up RPG, avec un vrai d'ailleurs dernier épisode qui est un RPG pur jus en fait. Et c'est vraiment que du coup de poing, du coup de pied, du suplex, enfin voilà, et c'est uniquement du combat de rue. Et je trouve que c'est très réussi, mais pour moi, ça rentrait peut-être moins dans les arts martiaux que d'autres jeux. Ouais.
D'ailleurs, ceci dit, c'est à l'image de ce top 5 all-time, hein, c'est-à-dire qu'on a eu du mal, voilà, Ghost of Tsushima ou pas, c'est quoi un art martial ? Enfin bon, bref, ça a posé des questions finalement beaucoup plus complexes que se dire « Ouais, viens, on fait un top 5 sur les jeux de kung-fu qui se tatanent ». Non, ouais, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, bah, Yakuza, effectivement, c'est quand même une belle série, il y a de superbes jeux. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Toi, Stéphane, t'es plus du côté du ragdoll kung-fu.
Parce qu'en fait, j'ai essayé d'être un peu spécial. Alors, c'est pas des grands jeux, hein, ça, faut loin s'en faut, quoi. Mais j'ai une petite affection en fait pour. C'est un jeu qui s'appelait Ragdoll Kung-fu qui est sorti sur PS3, je crois à l'époque, si je dis pas de bêtises. Et en fait, qui jouait en fait tout simplement sur la logique du ragdoll, c'est-à-dire vraiment en fait, si tu veux, ce système, ce truc de moteur de jeu, en fait, si tu veux, où d'un seul coup, quand tu mets un coup dans un personnage, tu sais, il a les bras qui partent comme des poupées
comme
de chiffon.
Comme un chiffon, ouais, c'est ça, poupées de chiffon. Ouais.
Et du coup, en fait, les mecs se sont dit, bah, ça serait rigolo de faire un jeu de kung-fu autour de ça. Tu vois. Alors, c'est vraiment un jeu indie, entre guillemets, hein, ouais. C'est-à-dire, voilà quoi, mais fait avec soin, à l'époque de la PS3, très, très, comment dire, parodique. Tu avais une chanson, si tu veux, qui s'appelait Ragdoll Kung-fu, si tu veux, qui était chantée par, sur des airs asiatiques, tu vois.
Heureusement, une époque. Hein,
ouais, peut-être un petit peu raciste de l'extérieur, si tu veux.
C'est un des problèmes de l'appropriation culturelle, c'est que là, ça peut gratter sur des zones.
Ça allait un petit peu loin dans le. Mais disons que en fait, ça se faisait aussi par détournement parodique en fait de films d'arts martiaux des années 70, on va dire, tu vois, des trucs comme ça. Donc en fait, il y avait vraiment une vision post Tarantino en fait sur le truc, quoi. Mais il y a un autre jeu en fait que je cite aussi dans les mentions qui est similaire, qui est Kung Fu K.O. Mais en fait, en gros, voilà, c'est pas du tout les mêmes gameplay. C'est-à-dire qu'en fait, dans Ragdoll Kung Fu, il y a vraiment l'idée que tu balances tes bras en fait aux quatre coins de l'écran et en fait, du coup, tu peux éclater les mecs qui sont vraiment tout en haut, tout en bas, suivant où tu te places, quoi. Et ça, c'était un peu rigolo. Dans Kung Fu K.O., c'est vraiment, pour le coup, c'est intégré dans la notion juste. C'est un petit jeu Xbox 1. C'est ça qui était sorti au début des années 2000, hein, 2002-2003, et qui était franchement rigolo parce que quand t'es comme moi et que t'as un peu des références, on va dire, tu sais, de films d'arts martiaux des années 70, tout ça, etc., etc., bah en fait, c'est l'envers du décor. C'est en fait, on te dit, voilà, t'es un réalisateur et en gros, tu dois diriger tes comédiens en fait qui sont des artistes martiaux pour arriver à faire une scène de film d'arts martiaux, et du coup tu te retrouves avec plein de références en fait évidemment au cinéma de Bruce Lee, au cinéma de Chang Chi, à tous ces trucs là, etc., etc. Et bon, c'est très très cartoon pour le coup, si tu veux. Pareil, c'est pas tu vois, c'est pas le jeu le plus fin on va dire en termes de culture, effectivement de réappropriation culturelle.
Il y aura pas forcément
chinoise.
Que des jeux fins, j'ai l'impression.
Non,
hein,
bien
non,
sûr.
Pas...
Bah après, de toute façon, après, il faut voilà, je veux dire. Et puis surtout à cette époque-là, on va dire, le jeu vidéo ne s'embarrassait pas trop de problématiques, quoi. Ouais. Et puis c'est pas toujours simple non plus. Il faut dire, le jeu vidéo n'a pas forcément toujours le luxe d'être, dans le détail, tu vois, d'être vraiment raffiné dans ce que tu veux donner, quoi. Et puis surtout à cette époque-là, s'il fallait qu'il y ait un goût, quoi, en fait, pour chacun de ces jeux-là, quoi. Bah là, en fait, si tu veux, bah c'était ça, c'était vraiment le truc un peu méta, un peu fun, mais assez drôle, hein, vraiment. Moi, dans mon souvenir, j'ai pas rejoué depuis parce que c'est un jeu, encore une fois, c'est un jeu Xbox 1, hein, pas très joli, pas très voilà quoi, pas très bien fini, quoi, pas très genre t'as pas l'impression d'être un super artiste martial quand tu joues à ce jeu-là, mais qui était plutôt fun à cause justement de ce référencement-là, quoi.
J'en citerai un autre parmi tes mentions honorables parce que bon, on parlera évidemment beaucoup de Bruce Lee lors de ce podcast, en tout cas. Fantôme errera et hantera ce podcast tant il a nourri les jeux vidéo et cette fantasmagorie du jeu vidéo d'art martial. Et c'est Jet Li, Rise to Honor, j'avoue, Rise to Honor, ouais. Moi je ne le connais pas, donc Jet Li est cité. Donc c'est
jeu PS2,
ouais.
Post, carrière américaine de Jet Li. Jet Li, en fait, alors c'est assez marrant en fait comme truc, c'est qu'il faut savoir que Jet Li, donc, à un moment donné, est parti, entre nos auditeurs le savent, tu vois, est parti de Hong Kong pour aller faire des films aux États-Unis, notamment avec Joel Silver, hein, et il a refusé, c'est-à-dire il a fait des grosses merdes, si tu veux, avec Besson et avec Joel Silver, mais il a refusé les Matrix. Et il avait refusé les Matrix pour une raison très simple, c'est-à-dire qu'il avait dit, en gros, je ne veux pas, en fait, qu'on fasse de la motion capture avec mes mouvements d'arts martiaux, en fait, parce qu'en fait, ils vont être ensuite copyrightés par la Warner, si tu veux. Donc, tu lui dis, ok, admettons, tu vois. Et là, d'un seul coup, il fait de la mocap, en fait, pour un jeu vidéo tout pourri, tu vois, qui s'appelle Rise to Honor, qui dure, très honnêtement, 4 heures de jeu, hein, voilà. Mais qui avait ce truc, en fait, c'est, vraiment, c'est une série Z, hein, le jeu. C'est-à-dire que c'est pas un très grand jeu, c'est un jeu PS2. Il joue un flic, il y a un gosse qui se fait kidnapper, je sais plus c'est quoi les trucs. Enfin, vraiment, l'histoire, c'est super basique. C'est lui qui joue le rôle. Ce qui est marrant, c'est que c'est en chinois. Donc, quand il parle avec certains personnages chinois, c'est en chinois. Bon, c'est un petit peu en anglais aussi des fois et tout, mais c'est vraiment c'est à l'occidental, on va dire, pour le coup. Voilà, c'est vraiment le Jet Li post. Alors, c'était quoi déjà les films? Attends, que je... Roméo doit mourir.
Oui.
Et celui avec DMX.
Le baiser mortel du dragon, c'est ça?
Alors, en sursis, merci. Alors, Alain, il le connaît parce qu'il connaît. Alain, il a la BO. Il a la BO avec DMX et tout, quoi. Et c'est ça, en sursis.
J'avais cru qu'on allait oublier cette douloureuse période qui revient.
Et en fait, si tu veux, c'est très tendu. Cette période-là, donc c'est très très daté, mais c'était rigolo. Alors bon, le jeu, voilà. Après, ce qui était bien à l'époque, hein, parce qu'en fait, j'ai revu des vidéos du coup pour le podcast. J'ai pas le jeu sous la main pour le relancer, mais en fait, j'ai revu des vidéos et je me disais à l'époque, ce qui était bien, c'est qu'il y avait des mouvements de Jet Li. Vraiment, il y avait vraiment l'idée, si tu veux, qui partait. Tu sais, il y avait des coups qui partaient en arrière, des trucs comme ça dans les Corées un peu. D'ailleurs, c'est lui qui a fait les Corées de Coréenne, quoi. Et en gros, si ce n'est que le problème que moi j'avais avec Coréenne au cinéma, c'est que c'était souvent très très brouillon, ces chorés. C'est-à-dire que, pas encore une fois les chorégraphies forcément en soi, mais le fait, en fait, si tu veux, que si tu prenais en opposition à Yen Wuping à l'époque, qui est un autre grand chorégraphe, en fait, qui est passé le cap aux États-Unis, notamment avec Matrix, c'est que chez Yen Wuping, il y avait en fait des chorégraphies qui permettaient des mouvements de caméra, en fait, si tu veux, qui suivaient les coups. Si tu veux, c'est-à-dire que tu avais 3-4 coups portés, tu pouvais faire ça en un seul mouvement de caméra, ce qui était plutôt cool parce que tu voyais vraiment une décomposition du mouvement. Chez Corée Yen, les 4 mêmes coups, c'était 4 plans. Bon, j'exagère, mais tu vois, enfin, pas loin, il y en avait 2 ou 3. Quoi, tu vois. Et en gros, si tu veux, ce qui était bien avec, avec le jeu, c'est comme t'as pas de, comme ta caméra, c'est ta caméra 3D, on va dire, si tu veux, bah, tu pouvais voir la décomposition des mouvements quand même. Et je me disais, ah, ça, c'est plutôt cool par rapport au film chorégraphié par Corée Yen. Ouais. Et bon, très honnêtement, à la revoyure, c'est pas super bien foutu, quoi, tu vois, c'est pas très précis. Voilà. Ouais. Mais disons que s'il y a des fans de Jet Li dans l'audience, quoi, enfin, ouais, qui nous écoutent, quoi, bah, si vous avez un émulateur PS2 ou si vous avez une PS2 qui traîne et que vous le trouvez en brocante à 2 balles, quoi, mm-hmm, franchement, c'est rigolo. voilà, c'est pas un très grand jeu, ça fait 3 heures aussi. Hein,
pour voilà, l'expérience, quoi.
Voilà, c'est ça, pour l'expérience, quoi.
Ok, ben voilà, ce top 5 all-time des jeux d'arts martiaux est bien lancé, je pense. Moi, pour mes mentions honorables, on va quand même trouver Sifu et Absolver, ouais, parce que les deux jeux, Slow Clap, ont l'art martial dans le sang, et ils le font très bien. Mais alors là, on est vraiment plutôt, ouais, époque 2020, c'est-à-dire avec une recherche dans la précision, dans les coups, dans la sensation, dans le ressenti des coups, dans la précision aussi, parce qu'effectivement, Sifu, c'est un jeu qui est très exigeant, même si un mode plus facile a été implémenté pour les rageux, certains diront évidemment, mais le jeu était très dur, et notamment dans la parade, parce que là, c'est vraiment tout un jeu de parade pour essayer d'éviter les coups. Voilà, donc ça, c'est des jeux qui sont quand même absolument incroyables, qu'on n'a pas mis, enfin, moi en tout cas, je pense qu'on n'a pas mis parce que c'était trop près ou encore trop proche, et le temps dira si Fou s'incrustera, si on en refait un dans 5 ans, si il s'incrustera dans le top 5 all-time, mais pour l'instant, ça me semblait un peu prématuré. Il y a aussi des jeux anecdotiques, mais tellement drôles, comme le Def Jam Fight for New York, avec nos amis rappeurs.
Il y a Alain qui avait encore la BO sous la main.
La BO, ok. Mais le jeu, bon, voilà.
Mais c'est des bons jeux. Enfin, pour beaucoup, c'était vraiment bien. Enfin,
ça cartonne. Non, c'est des bons jeux.
Vendetta, il y a aussi un
Les Naruto Shippuden sont excellents, voilà, ils n'y seront pas, mais difficile de les lancer. Là aussi, le petit cœur de Julien Inverno va saigner, puisque il y a comment s'appelle ce jeu déjà, Naruto Shippuden, Metal Gear Rising, exactement, on n'y est pas, mais quel jeu incroyable.
Tu peux dire ça moi.
Mais en vrai, ça va très loin.
C'est ça, c'est-à-dire que où le mettre et où le placer, en tout cas il s'est pas imposé.
Tu coupes des pastèques avec ton sabre, donc
voilà, il y a beaucoup de jeux qu'évidemment dont on ne va pas parler, on s'en excuse pour aux petits cœurs fragiles qui nous écoutent, nous aussi nous avons des petits cœurs fragiles, mais bon, il a fallu faire un choix, et 5 c'est pas beaucoup. On commence par ton 5e, tiens Pierre, qu'est-ce que tu as choisi en 5e place de ton top 5 all time des jeux d'arts martiaux?
J'avais donc Dead or Alive 2, qui est je sais que c'est une série qui est pas forcément hyper appréciée parce que elle est souvent limitée au fait d'avoir des jeunes filles avec une poitrine extrêmement proéminente. Mais c'est...
Non, mais je vois tes goûts, je te connaissais. Mais alors, plus justement. Intellectuel, alors plus, tu vois, plus raffiné, plus. Là, ah, Dead or Alive. Ah,
je chute direct. Pourtant, j'étais à ça, hein, mais.
Et en fait, on essaie de le mettre en premier, en fait.
Ouais, mais, enfin, sincèrement, c'est vrai que c'est des jeux qui, malheureusement, ont cette image-là, mais qui sont des jeux hyper techniques en termes de parade et de contre. Et moi, dans le jeu vidéo, en fait, dans les jeux de baston ou dans les jeux d'action, j'adore les notions de parade et de contre. Ouais. Et Dead or Alive 2 est vraiment brillant pour ça. Parce que c'est un des premiers jeux à avoir mis en place une vraie logique de victoire par la parade et par le contre. C'est-à-dire qu'on peut gagner, comme dans un, je sais pas, dans un Tekken ou en enchaînant les coups de manière classique. Mais le vrai avantage, c'est de comprendre la manière dont le joueur joue en face pour justement servir de son coup pour le mettre à terre, en fait. Donc il y a un peu un côté judo dans l'idée. Et c'était un jeu qui, en plus, était très généreux sur la mise en scène où tu pouvais casser le décor, passer dans un autre décor en pleine chute, rattraper la personne en bas. Enfin, il y avait un côté vraiment complètement décomplexé, ce que j'aimais beaucoup. Et surtout, le fait d'avoir l'impression de gérer de A à Z ton combat, de savoir exactement quand te servir de l'adversaire. Et ça, je l'ai retrouvé assez peu plus tard dans d'autres jeux. Et après, bon, c'est une série qui s'est un peu éteinte maintenant, qui a fini dans une sorte d'obscur free-to-play avec des costumes et des coups à acheter. Enfin, c'était un peu la déchéance, quoi. Mais vraiment, le 2 marche encore très bien. C'était un jeu, d'ailleurs, qui était sublime à l'époque, qui était une exclu Dreamcast, si je dis pas de bêtises, qui est après arrivé sur PS2. Et vraiment, moi, je l'avais pris par hasard. Et j'avais été étonné vraiment du niveau technique et surtout du fait que chaque personnage a son style, a ses coups précis, a un vrai, même juste des postures différentes. Et il y a un vrai boulot là-dessus, en fait, dans ce jeu-là. Et c'est vraiment un jeu que je conseille même maintenant. Ouais.
Parade contre, je suis tout à fait d'accord. Hein, ça fait partie des essentiels, en tout cas dans la sensation. On parlait de Sifu qui est très réussi d'ailleurs pour ce côté-là, mais je comprends très bien ton choix, en tout cas la caractéristique hein, là, autour de ce top 5, donc Dead or Alive 2. Pour toi, Stéphane, ton cinquième.
Alors moi j'ai mis, parce que c'est vrai qu'on n'a pas mis Sifu, et peut-être que Sifu en vrai ça vaut mieux que ce que je vais dire, mais Sleeping Dogs en fait qui était un jeu.
Alors, déjà, bon, moi je l'ai mis en 3, donc ouais, du coup, moi je l'ai mis en 3ème. Ah, bah, donc voilà, je peux le dire, toi tu l'as mis. Non, je l'ai mis. Alors toi, pourquoi tu le mets en 5ème
en fait,
et après, je dirais pourquoi je le mets en 3ème.
À part peut-être le premier jeu, quand on y arrivera, en fait, qui est vraiment au-dessus des autres, hein, en fait, il n'y a pas d'ordre vraiment. Voilà, il n'y a pas d'ordre particulier, mais en fait, Sleeping Dogs, bon, bah, faut préciser peut-être que c'est un jeu qui a une petite dizaine d'années maintenant, en fait, qui était sorti sur, je crois, Xbox 360, PS3 à l'époque. Hein,
c'est
voilà.
Ça, ouais.
Puis ils ont refait une version pour gène suivante, quoi. J'allais dire next gen, mais. Pour la génération suivante, quoi, PS4 et Xbox One. Et en fait, c'est un monde ouvert qui a mis un petit peu de temps à sortir parce que c'était en fait c'était censé être le troisième True Crime. Je sais pas si vous vous rappelez de cette saga en fait. Et en fait, finalement, c'était True Crime Hong Kong ou un truc comme ça.
C'est Hong Kong, la ville.
Et en fait, ça a été récupéré par un autre studio qui a décidé d'en faire un vrai open world un peu plus poussé, qui a vraiment enlevé, à raison, en fait, le côté, comment t'appelles ça, attaché à True Crime, quoi, pour en faire, en fait, si tu veux, un open world d'arts martiaux. C'est-à-dire vraiment, en fait, avec une grosse référence, pour le coup, au cinéma de Hong Kong des années 80-90, enfin, très très prononcée. Alors, pourquoi je suis un petit peu hésitant disons que, d'un point de vue de la narration de l'histoire, le jeu n'est pas ouf, en fait. C'est une histoire de flic infiltré. Voilà, c'est un peu trop classique, même par rapport au cinéma de Hong Kong.
Oui, c'est vrai qu'il était un peu plus inventif. Parfois, un peu plus inventif. Il n'a pas toujours été. J'adore le cinéma de Hong Kong, mais il n'est pas toujours non plus fin dans ses...
Non, bien sûr.
Mais là, c'est vrai que c'est classique.
Hein. Là, ce que je voulais dire, c'est plus... quand je dis c'est classique, c'est que... Alors, je vais pas me faire que des amis, mais moi, je suis plus, cinéma de Hong Kong des années 80-90. On va dire, j'ai envie de dire John Woo... Tsui Hark ou les trucs comme ça, bon, ce qui jusque là normalement les gens de goût me reconnaissent ça, tu vois, on va dire, mais disons que en fait là je trouve que ça allait un peu plus sur Infernal Affairs, moi c'est pas forcément un film que je porte en estime, quoi, et du coup il y a une espèce de digestion en fait de ce cinéma là pour en faire un espèce de truc un petit peu occidentalisé que moi je retrouvais dans Sleeping Dogs, c'est à dire que je me disais bon, moi je viens pour du John Woo et je viens pour du Tsui Hark et en fait on me file du Infernal Affairs. C'était là où j'étais un petit peu
déçu. Il y a un petit côté GTA sous influence, si on peut.
Il y a ça aussi, ça c'est clair.
Mais c'est-à-dire qu'en tout cas, il a été influencé par
il a été influencé. Si on se pose la question, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais mis un jeu comme Arkham City ou Arkham Asylum en fait dans ce top là, mais par contre très clairement les combats en fait d'arts martiaux dans Sleeping Dogs c'est en fait une c'est reprise Batman. Des combats de, ouais. du système de combat de, d'Arkham City quoi, de voilà. Bon c'est plutôt efficace hein, ça fonctionne plutôt bien, mais en fait tu peux pas te battre, enfin c'est à dire contre le simple truc que tu es en train de te balader dans Hong Kong et t'as des mecs qui t'engueulent en chinois quoi, tu vois, en cantonais. Et moi ça, tu vois, rien que ça, tu vois, c'était ça mon kiff quoi. Et à la limite, tu vois, après la problématique en fait,
Hong Kong
si
c'était génial. Hong Kong, parce que Hong Kong là, c'était un vrai choix différenciant, je trouve, une vraie proposition différenciante. Tu sais, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de tests là-dessus et de jugements là-dessus sur le fait que on avait d'autres villes que des villes américaines à visiter, tu vois. Et enfin, on avait des villes comme ça, un petit peu... voilà.
Totalement. Puis d'ailleurs, en fait, je ne sais pas, aujourd'hui, on a plus ou moins conscience qu'un GTA, ça se passera toujours aux États-Unis, hein, puisque apparemment, on est toujours à l'air de partir dans cette logique-là. Mais si pour les gens qui se rappellent de ça, avant GTA 4, justement, il y avait des rumeurs énormes sur GTA Tokyo, GTA... Et en fait, tout ça, ça excitait les gens, parce qu'on se disait, ah ouais, putain, ce savoir-faire, en fait, pour recréer ça, ça peut être cool, quoi. Moi, je pense qu'il y a... tu vois, tu nous posais la question dans le dernier podcast sur Trek to Yumi, est-ce que ça mériterait une suite ? Et ben moi, j'adorerais voir une suite à Sleeping Dogs avec les technicités actuelles et la possibilité, en fait, si tu veux, de pousser encore plus loin l'immersion et ce genre de choses. Parce que si on va dire que c'est un jeu sympa, hein, j'ai pris du plaisir à le faire vraiment.
Exactement.
C'est pour ça qu'il est dans mon top. Hein, il y a vraiment un truc cool. Il y avait aussi un truc, j'aimais bien les. Enfin, alors c'est anecdotique, mais j'aimais bien les petites DLC où ils te mettaient des fantômes chinois, des trucs comme ça. En fait, si tu veux, t'avais des comment t'appelles ça, les fantômes sautilleurs, en fait, si tu veux, qui sont des trucs qu'on a vu dans les films de Sammo Hung ou des trucs comme ça. Et ça, c'était plutôt cool, mais c'est folklorique, c'est dans la culture, on va dire quoi. Du coup, ça me faisait penser à toutes ces histoires de fantômes chinois, tous ces exorcistes chinois, les trucs comme ça. Et ça, c'était plutôt cool, quoi. Puis c'était, tu pouvais faire des scènes de combat contre eux, c'était plutôt rigolo, quoi. Donc c'est pareil, ça donnait quelque chose d'un petit peu différent, quoi. Maintenant, après, en termes d'open world, en termes de monde ouvert pur et dur, on a vu beaucoup mieux et déjà à l'époque. Donc en fait, c'est
mais
c'est
voilà, quoi. Tu vois, pourquoi je l'ai mis en numéro 3, c'est parce que c'est là où on a une différence de point de vue à l'époque. Parce que moi, j'en attendais absolument rien. Et même au contraire, je me disais jamais ils arriveront à faire un monde ouvert, on va dire cohérent, enfin en tout cas plaisant, à la hauteur entre guillemets d'un GTA, ou en tout cas pas trop loin, parce qu'en 2012, il n'y en a pas des masses, hein, des acteurs sur le jeu vidéo capables de faire de l'open open world de ce niveau-là. Or, il arrive et il est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire une ville. Certes, c'est un peu moins chiadé. Il y a un peu plus de défauts de ci, de là. Ceci dit, bon, la tenue de route est catastrophique. Elle n'est pas moins dans un GTA. Donc, comme ça, au moins, on est un partout la balle au centre. Les bagnoles dans GTA.
Dans GTA 5.
Ouais, et encore.
Qui est sorti un an après.
Ouais, encore, encore t'es gentil. Hein, parce que, quand même, la tenue de route, c'est pas on va dire, la qualité première d'un GTA. Mais bon, c'est anecdotique. Il y a un monde, il y a cette ville, et je trouvais ça super éclatant. Bon, effectivement, le scénar série B. Moi aussi, je suis comme toi, j'aurais freiné sur le côté occidental. J'aurais aimé qu'il pousse encore un peu plus loin ce cinéma cet hommage au cinéma hongkongais. Mais encore une fois, c'est une proposition qui arrivait. Moi, j'en attendais rien, et d'un coup, t'avais quelque chose, et je me suis pris au jeu. Et c'est vraiment le mot sympa. Mais je suis d'accord avec toi. Mais le mot sympa, où vraiment, tu le disais sur Trek to Yumi, finalement, c'est assez simple, c'est assez basique. Mais ils le font plutôt bien. Et en fait, à la fin, tu as un vrai truc, tu as un vrai jeu. Et ça se base sur un jeu de monde ouvert avec des arts martiaux. Il n'y en a pas des masses.
Et j'allais même dire, justement, en fait, c'est peut-être un des petits trucs. En fait, je pense qu'ils auraient gagné à être un peu plus radical là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux utiliser des armes. Mais le problème, en fait, c'est que tu vois tout de suite que, en fait, très probablement, on leur a dit qu'il faut mettre des armes parce que c'est un monde ouvert. Et qu'à un moment donné, en fait, il faut faire des fusillades et des trucs comme ça.
Ouais, ou même au niveau du gameplay, c'est plaisant. Hein, aussi,
voilà, mais sauf que le système de fusillade, je le trouvais beaucoup moins réussi que le système de combat. Du coup, ce qui fait que moi, en fait, je me disais, putain, non, j'ai pas envie d'un flingue, là, en fait, j'ai envie d'aller tabasser les gars, tu vois, etc. etc. Et du coup, par moment, t'es quand même un peu obligé de tirer. Et en fait, si tu veux, bon, ça fait partie du truc où je me disais, c'est dommage qu'en fait, les deux systèmes se complètent pas. Il y avait ce truc d'opposition où je me disais tout de suite, non, je préfère aller tabasser les gars que de tirer. Ce qui n'est pas du tout le cas dans GTA, évidemment, puisque dans GTA, c'est le système de tir qui prime. Quoi. Mais,
c'est le système inverse.
Voilà, si je me rappelle qu'il y avait ce truc, je me suis dit, bon, ça aurait été cool d'être radical et de dire, allez, on fait un vrai truc d'arts martiaux, blam, blam, et on y va, et puis ça reste en open world et tout. Quoi. Ouais.
Sleeping Dogs, donc, cinquième place pour Stéphane, et moi, il est en troisième place. Moi, mon cinquième, c'est Double Dragon. J'ai beaucoup de vieux trucs hein, comme moi, donc voilà, désolé. Hein, mais Double Dragon, donc 1987, ouais. Évidemment, le prof d'arts martiaux, on lui enlève sa fiancée, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc il appelle son frère, qui lui aussi, tiens, ça tombe bien quand même, un spécialiste d'arts martiaux. Et on va mettre des tatanes.
Billy Lee et Brandon Lee.
Non, pas Brandon Lee,
Brandon Lee, c'est Jimmy Lee.
C'est formidable.
Génial. Non, mais déjà, c'est tout un poème. Il y a une poésie, ça, c'est la poésie.
Tu te rappelles de la fin? Tu dois te taper contre ton propre fer pour avoir la meuf. Ouais. Ce qui était quand même complètement con.
C'est complètement dégueulasse. Enfin, bref, c'est bien l'image. Alors, ceci dit, là, le background, le lore du jeu est beaucoup mieux expliqué en japonais. Parce que je parle de lore, parce que bon, il n'y a pas de. Voilà, on t'explique pas. Là, on parlait de narration environnementale, là, on oublie.
Non, ouais.
C'est-à-dire que normalement, c'est un jeu post-apo. On est après au Japon, c'est un jeu post-apo. Donc on arrive, c'est pour ça qu'il y a des gangs. Et donc
les punks surtout.
Les punks, et on leur fout sur la gueule. Et on arrive, on est sur un beat'em all extrêmement plaisant. Ça tatane, ça défouraille. Ils sont idiots. Enfin, tout sent les années 80. Mais là, si vous voulez voir un vrai spirit des années 80, un vrai shoot d'années 80, moi j'aime bien Stranger Things, mais il y en a beaucoup trop. Et puis je trouve que, alors moi j'ai connu les années 80, parfois ils tirent un peu quand même à la ligne sur. Là, vous avez un vrai shot années 80, il n'y a pas de problème.
Ah oui,
c'est
bah
vraiment.
Ça,
voilà. C'est vrai. Et ça se joue encore. Je trouve que ça se joue encore. C'est un vrai jeu d'arcade.
Ils ont sorti un, en fait, il y a quelques années.
En fait, il y avait Double Dragon Néon sur X360 à l'époque, qui était très bien d'ailleurs.
Non, mais il n'y a pas un Double Dragon 4 ou un truc comme ça qui est sorti là récemment, un truc comme ça.
Pas en tête, peut-être.
Attention.
Mais en fait, il y avait ce truc quand même aussi.
Lâchez dans les commentaires si on a eu un trou de mémoire. Vous pouvez vous venger, les vieux, là, vous oubliez Double Dragon 12, vous l'avez oublié. Ah ouais, celui-là, je l'ai.
Non, mais je crois qu'ils ont fait Double Dragon 3 ou 4, je sais plus, en fait. Là. Le 3 était pas terrible.
Le 3, c'est noir.
Le 2, il était super dur.
Le 2, moi, c'est vraiment préféré. Enfin, je trouve que c'est la maturation du premier, mais en beaucoup plus difficile, effectivement.
Ouais. Et quand tu parles de lore, en fait, moi, j'avais 10 ans quand c'est sorti ce truc-là, tu vois, le seul lore que tu avais, c'était la boîte.
Mais c'est ça,
là, exactement. Donc, en fait, tu vois, les persos, tu leur donnais des noms. Ouais. Donc, par exemple, il y avait un gros, là, je l'appelais Magros, tu vois. Et donc, en fait, tu vois, voilà. Donc, mais t'as 10 ans, en fait, tu te dis, bon, comment il s'appelle celui-là? Tu sais, c'est comme Street Fighter, finalement. Ouais. Tu vois, moi, j'ai des potes, ils venaient chez moi parce que j'avais l'Amstrad, non, l'Atari, quoi. Ouais. Et en gros, ils me disaient, on joue au Thaïlandais, parce que les mecs, ils appelaient ça le Thaïlandais. Tu sais, on appelait même plus ça Street Fighter, quoi, tu vois. Je fais, ok, donc je mettais le Thaïlandais, tu vois, je sortais la disquette.
C'est toute une époque, hein.
Donc le lore,
en plus, c'est le lore au Japon, hein. Donc je vous dis ça. Et c'était un vrai. Il y avait Renegade juste avant, en fait, et ils ont trouvé, en fait, avec Double Dragon.
Renegade, c'est celui qui kidnappe Madonna? Il y en a un, oui, qui kidnappe Madonna.
C'est
Vigilante. Non, Vigilante, c'est Vigilante. Madonna, au début, il y a écrit Madonna était kidnappée. Et c'est une blonde, en fait, qui se fait balancer dans un camion. Et tu dois aller sauver Madonna.
Non, mais ils ont trop joué. Ils ont trop joué à Donkey Kong. À Super Mario, à Donkey Kong. Je pense qu'ils ont pris des shots là-dessus. Non, et là, ce qui était bien, c'est que tu pouvais te déplacer en haut et en bas. Hein, parce que ça, c'était l'un des premiers jeux qui proposait ça. Et donc, on pouvait aller en haut ou en bas. Non, c'était vrai. Et ça reste encore. Je trouve une référence, ça se joue très bien.
Clairement, hein. C'est une bonne série. Enfin, vraiment, si vous voulez essayer plutôt le 1 et le 2, qui sont des très bons jeux, le 3 est particulier. Ils avaient essayé de rendre plus dynamique et de varier un peu plus les personnages, mais il est d'une difficulté aberrante et ça n'a aucun intérêt. Vraiment, mais par contre, le 1 et le 2 sont vraiment des très bons jeux. Ouais.
Double Dragon, ton quatrième de ton top 5, cher Pierre.
C'était un petit Tekken 3. Parce que
Tekken, c'est bien.
Tekken, c'est vraiment une chouette série.
Ah, c'est bien d'avoir mis. C'est bien qu'on ait mis Tekken. On n'a pas l'air trop con. C'est bien. C'est bien.
Alors, une série qui, selon les gens qui n'aiment pas vraiment cette série, te résumeront ça par on matraque les boutons et tu gagnes. Ce qui va faux en soi.
Bah, ça dépend qui tu joues.
Voilà, hein. Ça dépend quand
tu joues. Mais... Comment il s'appelle le mec qui fait de la capoeira?
Oui, tout
le
monde. Je sais comment il s'appelle. Eddie, c'est ça. Eddie.
Non, mais Alain, merci. Eddie, c'est ça. Faut donner lui un micro. C'est impossible, quoi. Tiens. Et ou Warang, moi j'adorais.
Warang, c'est le meilleur personnage. Mais voilà, et c'est... En fait, ils ont, pour le coup, quand vraiment on a envie de bien jouer à ce jeu-là, ils ont vraiment des sets de moves qui sont très particuliers et qui sont d'ailleurs très durs à maîtriser parce que c'est... Enfin, pour moi, c'est l'école Namco. C'est-à-dire que Namco, c'est partie des boîtes japonaises qui ont fait beaucoup de jeux de rythme. Et Tekken, c'est littéralement un jeu de rythme. C'est-à-dire que tous les combos sont timés. Il y a vraiment un coup à prendre, en fait, pour les réussir. Et c'est surtout un jeu où, en fait, on a... un peu représenter toutes les facettes des arts martiaux. C'est-à-dire qu'on a littéralement Jackie Chan qui s'appelle le Lo. On a Bruce Lee aussi, vraiment son équivalent. On va avoir donc Warang qui va se battre juste avec les pieds. On va Eddie qui fait de la capoeira. Enfin, on a vraiment tout un ensemble de styles de combat. Et Et jamais, en fait, bon, il y a forcément un côté spectaculaire, il y a forcément un côté où on fait des chopes où les gens partent à 3 mètres de haut, mais il y a quand même toujours un respect des codes, à la fois, et ça qui est rigolo, à la fois des arts martiaux dont ils sont issus, mais aussi, notamment pour les personnages issus du cinéma, de coups de leurs films, en fait, où on retrouve la boxe de l'homme ivre, justement, avec Jackie Chan. Il y a vraiment une vraie volonté de mêler arts martiaux réels et arts martiaux réels aussi, mais que les gens ont connu par le biais du cinéma, ouais. Et à côté de ça, c'est vraiment cette approche japonaise à la fois de respect et de craquage complet en termes de casting, parce qu'on va avoir aussi un kangourou qui fait de la boxe, on va avoir le personnage de Gon justement tiré d'un manga, on va avoir donc Mokujin qui est une sorte d'homme de bois qui est en fait normalement un mannequin d'entraînement, mais là aussi tiré justement de films d'arts martiaux, qui là prend vie. Et justement, en fait, à chaque tour, change de style de combat. Enfin, voilà, il y a vraiment ce mélange complètement improbable entre respect et
l'imaginaire et la fantaisie qui arrive à s'inviter.
Ceci dit, moi, je veux dire, les Tekken suivants, je veux bien que ça soit critiqué, mais ceux-là, c'était quand même assez novateur à l'époque.
Ah oui, clairement, c'était dingue. Hein. C'était partie des premiers jeux de combat 3D fluides et avec une vraie volonté de mimer justement des mouvements réalistes de personnages. Ouais. Ouais. Et ça, Virtua Fighter, effectivement.
Ouais, Tekken 7, d'ailleurs, ceci dit, connaît un très très joli succès. Récemment, j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin, ça fait des belles ventes. Je crois que ça a plus de 50 millions de copies vendues pour la saga Tekken tout au long de son histoire. Donc, ça commence à être dans le très 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 solide. Ton quatrième.
Moi, j'ai mis quoi? Attends, Mortal Kombat X. Mais oui, parce qu'on est dans un autre truc complètement différent.
Ouais, alors, c'est pas pareil là. Ouais.
Non, alors, c'est pas du
changement
pareil.
D'ambiance. Enfin, alors, ceci dit, il y a de la fantaisie, de l'imaginaire, mais il y a peu d'autres choses aussi.
Pourquoi
quoi.
Mortal Kombat X? Est-ce que c'est le meilleur jeu de combat en fait
non.
de Mortal Kombat? Je sais
tu
pas.
Tu vas
je
le savoir
pas.
Dans quelques minutes.
Non. Voilà, non, mais c'est très potentiellement, c'est pas le cas. Moi, j'aime beaucoup. En fait, j'aime Mortal Kombat, mais pour des raisons qui sont presque, extrêmement déviantes, déjà.
Le jeu est déviant.
C'est
pas un jeu normal, enfin bon. On en parlera.
Ce que je veux dire, c'est que la saga, il y aurait tout un podcast à faire autour de Mortal Kombat, je pense, quoi. Mais c'est-à-dire que la saga, elle existe, en fait, de façon, pour son côté un peu soi-disant radical, si tu veux, dans les années 90, où par exemple, tu avais un Street Fighter 2, c'était des combats, tu vois, si tu veux, assez classique, et là t'avais de la violence, t'avais du gore, t'avais des éclatages de fatalité, des trucs comme ça, etc., etc. Voilà, bon, maintenant quand tu regardes ces jeux là tu vas en parler mieux que moi tout à l'heure, mais moi je trouve qu'il y a un côté un petit peu désuet en fait sur la violence, en fait, si tu veux, mais en fait avec Mortal, il est pas d'accord.
Non, mais on en reparlera.
Et en fait, ce que j'aime bien avec les nouvelles versions en fait de NetherRealm, en fait, c'est que en gros ils poussent la violence beaucoup plus loin. Et alors il y a aussi ce truc en fait dans Mortal Kombat X qui est que ce que j'ai toujours trouvé en fait, c'est-à-dire que pour des gens comme nous, la mythologie en fait de Mortal Kombat, et Pierre il en parlait là justement en fait, si tu veux, d'aller chercher des Jackie Chan en fait, si tu veux, dans Tekken, des machins, là en fait Mortal Kombat c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait c'est littéralement la mythologie VHS, c'est-à-dire en gros c'est quoi, c'est t'as Van Damme pour Johnny Cage, tu vois. T'as, t'as Kano, c'est le Terminator, si tu veux. T'as, comment elle s'appelle, Sonya Blade, c'est Cynthia Rothrock ou Sarah Connor, tu vois. Ça dépend vraiment. Et en fait, tu te dis, ok, d'accord, en fait, en gros, c'est le vidéoclub, quoi. Genre, votre mythologie, c'est pas les bouquins, c'est pas les machins, c'est littéralement le vidéoclub, quoi. Et du coup, bah, forcément, c'est un petit peu, tu te retrouves dans un espèce de système où comment est-ce que tu recrées ça aujourd'hui? Si tu veux, dans les années 2000-2010, si tu veux, parce que ça a longtemps été ringard, en fait, c'est-à-dire Mortal Kombat dans les années 2000, clairement, en fait, ils ne savaient pas quoi faire avec ces trucs-là. Et le reboot, déjà de 2011, en fait, où les mecs se disaient, bon, ok, vous savez quoi, c'est Mortal Kombat, on sait con à manger du foin, il n'y a pas de problème, on va faire un jeu con à manger du foin, on va raconter la story, etc. etc. En gros, ils prennent l'histoire de Mortal Kombat 1 et 2, en fait, les films, si tu veux, que moi j'aime beaucoup, hein, mais qui sont, la qualité est discutable.
Effectivement.
Le premier, je pourrais le défendre, moins. Le 2, je pourrais encore plus le défendre, mais parce que c'est vraiment un nanar, tu vois, qui est assez formidable, quoi, nanar premium de luxe et tout. Mais le truc, si tu veux, c'est que, jusque-là, cette approche a été fun. Il y avait une vraie générosité, on va dire, si tu veux, dans ce Mortal Kombat-là, etc., ouais. Dans ce reboot, tu vois. Il y avait ce truc avec les towers que tu devais grimper, qui était plutôt cool, parce que
ouais,
ça te renvoyait forcément au jeu de la mort.
Je trouve qu'il y avait une autodérision qui était chouette. Enfin, c'était vraiment agréable de les retrouver tous aussi cons les uns que les autres. Voilà. C'était bien.
C'était mais jusque-là, c'était on reboot. Ouais. Et Mortal Kombat X, qui est le dixième, hein, techniquement, quoi, il y avait l'idée de dire, ok, maintenant, on est un peu emmerdé, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait continuer la même chose ? Est-ce qu'on répète, en fait, globalement, une fois qu'on a rebooté ça, qu'on a une espèce de méta-conscience de ce qu'est Mortal Kombat ? Est-ce qu'on répète ça ? Ou est-ce qu'on essaye de créer quelque chose autour de cette mythologie qui, mine de rien, dure quand même depuis, à l'époque, donc 20 ans, tu vois ? Un peu plus de 20 ans, 23 ans, quoi. Et ce qui m'a vraiment surpris avec Mortal Kombat X, c'est notamment dans la story, dans la storyline et tout, c'est qu'au-delà de... Johnny Cage, il a fait une fille avec machin, ça se passe 20 ans après, super, elle a les mêmes pouvoirs, blablabla, etc. Et puis ils ont créé tout un roster de persos, tu vois. C'est que, en fait, il y a une façon d'essayer de traiter ça avec un sérieux et une déférence qui, en fait, fonctionne. C'est-à-dire, à ma grande surprise, tu peux te retrouver, en fait, avec, par exemple, tout bêtement, des personnages comme, tu vois, Sub-Zero et Scorpion qui sont, très honnêtement, on parlait de l'or tout à l'heure, bon, bah voilà, hein, tu vois, je veux dire, ça pisse pas très loin, quoi, tu vois, c'est les ninjas de la canon, hein, tu vois, en gros, quoi, il y en a un, il envoie de la glace et l'autre, en fait, il envoie du venin, quoi, sauf que là, bah, en fait, ils t'en font deux frères et demi dans l'histoire, tu vois, avec des espèces d'accents, alors... proportion gardée, hein, tu vois, ok, on n'est pas chez Kurosawa, quoi, mais avec des espèces d'accents de trucs de samouraï, de films de samouraï, si tu veux, des années 60-70, si tu veux, qui, moi, m'ont vraiment surpris et qui donnent une espèce de profondeur. Alors, c'est dans la storyline, hein, c'est vraiment, voilà, je parle pas du jeu, du gameplay à proprement parler, quoi, qui était vraiment, comment dire, moi, je trouve assez touchante, avec un vrai regard. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est foutu de la gueule de la saga, de la franchise, tout ça, etc., avec un vrai regard, en fait, si tu veux, on se dit, mais on peut, vous savez, on peut. C'est la démonstration qu'on peut prendre quelque chose d'aussi désuet, d'aussi voilà, et d'essayer de le traiter avec sincérité, profondeur, le terme est un peu fort, mais en tout cas, si tu veux, quelque chose de où on essaye de toucher une certaine corde émotionnelle, tu vois, et on peut y arriver. Et ça, ça m'a vraiment surpris. Ça, c'est le premier truc qui m'a surpris avec Mortal Kombat X. Et puis alors, quand t'enlèves justement la déconne pure et dure, il y en a hein, dans le jeu, qu'on soit clair, hein. D'un seul coup, la violence, elle devient des fois assez, comment dire, hardcore, quoi. Il y a, comment dire...
C'est assez cringe. Ça,
ouais, ouais, ouais. Il y a la mort. Bon, alors, c'est jamais vraiment... C'est un peu comme dans Star Wars ou dans Marvel. Hein, les persos, ils ne meurent pas vraiment. Mais tu as la mort de Milena, qui est un des persos, en fait, qui, dans une scène, dans une cinématique, qui est extrêmement crade. Où elle se fait bouffer par des cafards ou des... Je ne sais plus ce que c'est. Des comment dire... Des mythes, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Elle se fait défoncer comme ça. Et la version est tellement crade que, en fait, en essayant de revoir la scène sur YouTube, j'ai pas réussi à trouver. Elle est censurée. Non. C'est quand même ouf, quoi. Tu vois, il y a ce truc. Je me rappelle, je m'étais dit, putain, mais c'est dégueulasse, quoi. Tu vois, c'est incroyable, quoi. Et franchement, il y a tout ce truc. Alors, bon, moi, comme je suis. Alors, c'est l'heure des. Faut le dire, quoi, tu vois, c'est l'heure des déclarations, d'avouer que je suis une bille, hein, je sais pas jouer, moi, à ces jeux-là, je suis vraiment nul, en fait, aux jeux de combat, en général. Je le vois parce qu'en fait, si tu veux, jusque-là, bon, je peux taper sur ma sœur ou je peux taper sur mon frangin, tu vois, il n'y a pas de problème, je peux gagner éventuellement des combats, mais le truc, si tu veux, c'est que quand je me mets à jouer avec des vrais joueurs, alors là, les mecs, ils me disent, mais qu'est-ce que tu branles, là, tu vois, t'es en train de faire n'importe quoi, effectivement, si je fais n'importe quoi, si tu veux, pour essayer de, tu sais, je ne trompe personne, tu vois. Et donc, du coup, malheureusement, j'arrive pas à caser les putains de fatalités qui sont quand même putain de chiantes à caser.
Ça prend depuis le début. Hein, ça,
voilà.
J'ai
jamais réussi à balancer ces putains de
fatalité,
combos. Quoi.
Hein, c'est un super bonus. Hein, ça s'acquiert.
Ouais. Mais du coup, je me fais éclater en fatalité pour pouvoir les voir et elles sont putain de super crades. Ah, tu vois, il y a des trucs où les mecs, en fait, t'as envie de dire, mais comment? Je pense qu'il y a des cellules de psychologie, en fait, si tu veux, quand ils sont en train de développer ces trucs-là, c'est pas possible.
Mais
c'est carrément,
ils aiment le gore, hein, de toute façon. Hein,
ah ouais, ouais.
C'est l'essence de la série.
Mais ça, c'est vraiment leur money shot, hein, ils l'ont vendu comme ça depuis,
ah ouais,
depuis
le
début.
Splatter, enfin, c'est pur, quoi. C'est vraiment.
C'est que les fatalités sont bien dégueu.
Ouais, ouais, sont bien dégueu. Donc voilà.
Et puis
donc,
le reboot, hein. Même le reboot, hein, il est.
Ouais. Mais il y a plus d'humour. C'est-à-dire, il y a de l'humour aussi là-dedans, mais je trouve qu'il y a plus d'humour de manière générale sur le truc, ce qui fait qu'en fait, sur.
Bien dégueulasse quand tu la lances, tu fais. Ah ouais, quand même, vous êtes allé jusque-là. Ouais.
Donc, il y a un perso qui est couleur, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est un espèce de pistolero qui est un peu inspiré de Clint Eastwood et tout, là, qui est sympa, quoi. Et tu te dis, normalement, ça ne devrait pas fonctionner dans un truc comme ça. On n'est plus dans les arts martiaux, hein, d'ailleurs, tu vois. Mais en fait, il est plutôt pas mal.
Il est plutôt senior.
Franchement, voilà. Et tu vois, très honnêtement, il est bien foutu, hein, Mortal Kombat 11. Oui. Mais je préfère. Il y a les 60 FPS, il y a tout ça, il y a 4K, blablabla, c'est super. Hein.
Ouais.
Mais je trouvais que Mortal Kombat X était quand même plus efficace au moment où il est sorti. Quoi.
Ok, numéro 4 donc, pour Stéphane Morisaki de son top 5 des jeux d'arts martiaux. Pour moi, le quatrième, c'est Karateka. On retourne encore en arrière, plus vieux que Double Dragon. Donc 84, ben, pas très loin d'un d'un Kung Fu Master, je crois, me semble-t-il, de mémoire. Donc Karateka, c'est un jeu de l'américain Jordan Mechner ou Mechner, ça dépend des prononciations. Donc Jordan Mechner qui vit à Montpellier aujourd'hui, donc qui est un concepteur. Bah là, il sortait de l'université américaine de Yale. Et puis, il voulait quand même faire des jeux, donc poussé par papa, il a fait un hommage. Alors, il n'a pas fait un jeu, c'est ce qu'il dit d'ailleurs souvent, il n'a pas fait un jeu d'arts martiaux, il a fait un jeu où on combat. Donc il y a quand même une histoire. Bon, l'histoire, c'est quand même qu'il fallait sauver une princesse, etc. Et donc on arrive en bas des donjons et il va falloir battre les uns après les autres les différents karatéka qui vont se présenter devant soi. Alors karatéka, il est tout en blanc, hein, donc c'est plutôt un karatéka orthodoxe. Hein, il est quand même dans les ordres. Hein, il a les bons habits qui vont bien. Là, on n'est pas dans Sleeping Dogs, habillé n'importe comment. Et surtout, il y a une obsession chez Jordan Mechner qui sera intéressante, qui va se profiler notamment jusqu'à Prince of Persia, c'est l'obsession du mouvement. Mm. Donc il cherchera toujours, et ça, moi, je trouve que c'est très important. Toi, tu disais parade, contre, c'est vrai. Et c'est le mouvement. Alors, quelque part, on pourrait rajouter les jeux From Software, entre guillemets, dans cette obsession de rendre les movesets extrêmement réalistes, en tout cas très agréables, fluides, d'une rare fluidité. Et lui, il cherchait ça. Alors, je ne dis pas que ils ont le karatéka a une grande fluidité, mais pour l'époque, il en avait une. Moi, je l'ai rincé sur Commodore 64. Fou, hein. C'est complètement fou. C'est-à-dire vraiment une obsession. Il a été voir des combattants d'arts martiaux. Il les a pris en rotoscopie. C'est un système de capture de mouvement de l'époque pour pouvoir rendre le réel, c'est-à-dire les coups, comment ils étaient donnés, etc., coups de poing, etc. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Et je trouve que ça reste une masterclass qui, évidemment, alors pour le coup, n'est pas jouable. Ce n'est pas Mortal Kombat X aujourd'hui. C'est vraiment, on va dire, une curiosité de l'histoire des jeux vidéo. Mais ça reste quand même pour moi un souvenir de Commodore 64 où tu mettais les jeux avec la cassette. Il fallait 30 minutes pour installer ce foutu jeu. La cassette, vous ne savez pas ce que c'est, mais enfin, c'est une bande qui passe. Il faut attendre 30 minutes parce que le jeu était très léger, mais 30 minutes et avec une fois sur deux, ça plante à la fin, vous êtes sûr. Donc vous n'avez pas le jeu. Hein. Donc,
voilà, ou alors il fallait retourner la cassette.
Voilà, c'est ça.
Tu retournais la cassette.
C'est vraiment une toute autre époque. Et là, pour le coup, on voyait quand il y avait un jeu qui était différent et qui envoyait un gameplay, une sensation différente, on le voyait tout de suite, en tout cas assez vite. Et Karateka fait partie de ces joyaux, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top 5, et donc il est en quatrième.
Moi, j'avais mis dans les mentions, je crois que j'avais mis Kung Fu Master pour en parler un peu, mais c'est vrai que dans la logique, il y a un truc qui est quand même assez dingue, c'est que c'est des jeux qui ont créé, en fait, c'est pareil, c'est ce qu'on disait sur Trek to Yomi la dernière fois, c'est-à-dire que c'est des jeux en fait, qui viennent en fait, d'une influence de cinéma, qui prennent un truc en fait, du cinéma et qui disent, ok, en fait, si tu veux, bon, t'as le jeu de la mort, par exemple, de Bruce Lee.
Oui, c'est le jeu de la mort, hein,
et ouais. Voilà, en fait, si tu veux, tu te retrouves avec ce truc-là. Et ouais. Ce qui est assez ouf, c'est que Kung Fu Master est. Le jeu, il est assez vénère,
quoi. Tu vas en reparler de Kung Fu Master, hein. Je te le dis, hein, je te le dis tout de suite. On va passer au top 3 maintenant. Gros suspense, Pierre, qu'est-ce que tu as choisi ? Des femmes en soutien-gorge ou de quelque chose de
alors,
plus...
Alors, même pas... Alors, ça aurait pu, mais non. C'est, je crois pas qu'il y en a dans le jeu, il faudrait vérifier. Mais
c'est de... Faut pas se planter maintenant.
C'est Tenchu. Alors, bon, pour le coup, on va dans le ninja.
Oh, ouais, c'est ça là-haut.
Qu'est-ce ouais, t'as un peu trichoté.
En fait, j'ai pas le droit de mettre Shinobi, et alors toi, t'as le droit de mettre.
Non, parce que je suis dans le ninja réaliste. Je suis dans le ninja
oui, le très réaliste.
C'est que Tenchu, ça, ouais, ça. Alors pourquoi dans l'art martial plus peut-être d'ailleurs, ouais, c'est une bonne mais question.
Parce qu'en fait, il y a pas mal de jeux donc avec des entre guillemets ninja qui sont un peu l'image justement que alors, fait le.
Tenchu, on va dire, c'est pour bien expliquer, c'est l'ancêtre de Sekiro, hein, en gros.
Oui,
hein,
c'est ça.
En tout cas, il y a une.
Et globalement, en plus, il y a une vraie filiation, sachant ouais. que des gens qui ont bossé sur Tenchu ont bossé aussi sur Sekiro. Et d'ailleurs, c'est une licence qui a été reprise à un moment donné par France Software, justement. Et donc, oui, donc, en fait, Tenchu, donc, pour aller vite, c'est vraiment un jeu de ninja vraiment pur, c'est-à-dire qu'on joue. Je sais plus, mais dans le 2, on avait le choix donc, entre un homme et une femme. Je crois que dans le 2, il n'y a que le personnage principal. Donc, il s'appelle Rikimaru, qui est donc un ninja envoyé par son seigneur faire diverses missions en fait, dans un Japon médiéval. Et donc, c'est un jeu qui est 100% infiltration. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver face à un ennemi et essayer de s'en sortir avec son sabre, mais clairement, c'est peine perdue. On se fait assez vite dépasser. Et en fait, je l'ai mis parce que pour moi, c'est vraiment l'espèce de quintessence de l'art martial de ninjutsu en fait qui est souvent en fait on a souvent l'image du ninja dans le jeu vidéo mais qui est justement un ninja en plein jour en fait vraiment littéralement juste le ninja c'est un personnage avec vaguement une cagoule qui lance des shurikens et c'est pas ça du tout en fait le vrai ninja enfin le
Attention à ce que tu dis.
Le ninja classique.
Te regarde avec un air assez méchant.
Il y a le faux ninja.
Disons qu'il y a le ninja fantasmé, mais qui marche aussi, ouais. Hein, qui est très bien.
Mais alors, alors le Scorpion et Sub-Zero, c'est des vrais ninjas ou c'est des faux ninjas?
Est-ce qu'à l'époque, il y a des ninjas qui crachaient de la glace, je sais plus.
Et on va faire la différence, la distinction entre le vrai ninja et. Il y a le bon ninja et le mauvais ninja.
Alors, le bon ninja. Et donc, il y a vraiment ce côté de donner l'expérience du ninja dans le sens ombre qui va juste furter sur un niveau, essayer de jamais se faire voir, essayer de remplir sa mission, mais justement sans jamais mouiller, entre guillemets, son seigneur. On sait vraiment l'envoyé qui va être là pour justement soit brouiller les pistes, soit éliminer des cibles spécifiques qui vont servir à sa maison, entre guillemets. Et je trouve hyper intéressant pour ça parce que c'était un des premiers jeux qui servait du ninja de cette manière-là, en fait, justement, qui n'était pas dans la représentation fantasmée de ce qu'il est, mais vraiment dans l'utilité de son art, en fait. Et c'est un jeu qui est fascinant pour ça, c'est-à-dire qu'on a tout un panel d'ustensiles qui correspondent justement à l'art martial d'origine, et où en fait on va se... Bon, ça reste un jeu vidéo, donc il y a des petites entorses, mais il y a vraiment ce côté, c'est un jeu qui permet de jouer un ninja, littéralement. J'ai jamais joué à aucun autre jeu à l'époque. Maintenant, c'est plus le cas, en fait, il y a beaucoup de jeux d'infiltration depuis, mais vraiment un jeu qui proposait de jouer avec la vision japonaise de ce qu'est ninja et pas justement la vision américaine où bah, justement on parlait des ninjas de la canon où c'est littéralement ça, où là on était intégré dans cette logique-là et c'est surtout ça, c'était une logique intégrée dans le gameplay. C'est-à-dire que le gameplay découlait du ninjutsu en lui-même, en fait. Et pour ça, je trouve que c'était un des rares jeux réalistes à l'époque et un des rares jeux qui demandait une vraie application, un vrai sens d'observation. Et il fallait vraiment limite planifier ses assassinats, planifier ses routes dans les niveaux. Et donc voilà, moi c'est comme ça que je vois vraiment l'art martial, c'est justement utiliser de manière optimale une connaissance d'un art particulier. C'est pour ça que je trouvais que ça s'intégrait bien dans la liste.
Très bien. C'est une bonne explication de pourquoi le faire rentrer, effectivement, pour son côté très réaliste. C'est vrai que le jeu, bah, tu oublies de le dire, c'était quand même assez dur, quoi.
Oui, c'est très dur, à l'époque.
C'était quand même, le niveau de difficulté était quand même assez intense.
On se battait aussi contre des ours, ce qui est moins réaliste, mais voilà, c'était...
Mais on parle pas de l'ennemi, mais comment jouer.
C'est difficile et que tu te bats contre un ours et qu'il te bolosse, c'est réaliste.
Voilà, ouais, c'est réaliste, il t'a bien bolossé.
Ninja ou pas ninja.
Tenchu, donc, numéro 3 pour Pierre, ton numéro 3, Stéphane.
Sur le Calibur 2. Alors on reste dans le jeu de combat.
T'es nul en jeu de combat et tu...
Ouais, mais j'aime bien appuyer sur tous les boutons.
Ah oui, pardon.
Ça fait partie du plaisir. Ouais,
mais c'est la même école que Tekken. Hein,
après, le truc, si tu veux, c'est que Soul Calibur... alors, je sais pas si je dirais que j'étais plus technique, on va dire, sur Soul Calibur, quoi. Mais en fait, il y a... En tout cas, moi, je le voyais comme ça à l'époque, quand c'est sorti le premier Soul Calibur, et puis surtout le deuxième, en fait, que moi, vraiment... disons que je parle de Soul Calibur de manière générale, ça s'est un peu perdu maintenant, hein, je trouve le 5, le 6, je les trouve pas super intéressants, quoi. Mais je sais que en fait à l'époque sur la Dreamcast, en fait, j'ai passé des nuits entières avec des potes à jouer au premier Soul Calibur, et quand le 2 est arrivé sur PS2, enfin franchement, c'était, pour moi, c'était la Rolls des jeux de combat, quoi. C'est-à-dire que vraiment il y avait un truc je vais pas me faire que des potes là, mais il y a ce que j'appelle peut-être un petit peu un petit côté ringard, ce que j'appellerais la beaufrie japonaise, en fait, si tu veux, c'est-à-dire le côté un peu attention, il faut du cossu, il faut du luxe, il faut du faut de la grande musique, si tu veux, symphonique et tout ça, etc., etc. Alors que ça reste, tu vois, comment dire, certains persos, tu vois, un peu bizarre, quoi, tu vois. C'est très poussé, en fait, vous me pardonnerez le terme, hein, quand je parle de beaufrie japonaise, mais tu vois, c'est très poussé, en fait, ce truc. Parce
ils
que...
en ont aussi, hein, c'est pas, enfin, je veux dire, bon,
mais c'est pour ça que je dis ça, en fait.
C'est pour ça que je dis ça,
je
sais qu'il
y a un grand trip otaku, en fait, si tu veux, qui fait que, en fait, ces règles sont totalement intégrées, en fait, même par les occidentaux, en disant, bon, bah, c'est japonais, donc c'est comme
oui,
ça.
Oui, c'est
si
comme
tu
ça,
veux.
C'est pas trop.
Il faut quand même reconnaître, des fois, qu'ils poussent un peu le truc un peu loin, quoi. Et du coup, tu vois, les Devil May Cry, les trucs comme ça, des fois, je trouvais que ça allait un petit peu loin dans ce genre d'imagerie rococo.
On a parlé d'Dead or Alive. Bon, voilà.
Et là, ce que j'adore, c'est que tu as des grandes colonnes grecques, t'as des trucs et tout. C'est du marbre partout, si tu veux. T'as des mecs, tu vois, c'est des mecs avec des armures, en fait, super, super luisantes et tout. Donc voilà, il y a ce côté-là. Mais par contre, en fait, en termes de ressenti de combat, moi, je trouvais ça. Enfin, que ce soit, même si c'est des excellents jeux, hein, les Street Fighter 2, tous les jeux qu'on a cités jusque-là, hein, c'est des excellents jeux. Là, je me disais, putain, il y a une dynamisme, il y a un truc de coup, et puis surtout il y avait, je trouvais, en fait, on poussait encore plus loin. On avait atteint un cran supplémentaire, en fait, dans la différenciation des combattants. C'est-à-dire que vraiment, tu avais... Alors, en termes de cohérence, en fait, d'univers, je pense que, bon... Moi, je le cherche même plus, si tu veux. En fait, on est dans un jeu vidéo, quoi. Mais disons qu'entre une nana qui vient de la mythologie grecque, tu vois, qui est Sophicia, par exemple, si tu veux, Kilik, en fait, si tu veux, qui a un bâton, si tu veux, comme ça, en fait, où c'est clairement un combattant chinois, tu vois. Maxi, avec son comment t'appelles ça, qui a une coupe à la Elvis, et qui a un nunchaku absolument incroyable. Si tu veux, tu te retrouves avec un espèce de truc où tu te dis, OK, on est partout, là, tu vois, on est partout, on est nulle part. T'as une espèce d'épée avec un œil dedans, la Lovecraft et tout. Hein, l'univers, il est complètement fou, en fait, si tu veux. Il est complètement bariolé, baroque. Vénère et tout, quoi. Mais, puis t'avais comment il s'appelait, ce combattant énorme avec son épée, justement, là, celui qui a.
T'avais Siegfried, qui était
incroyable, tu vois. Non, mais voilà, en fait, tu partais, t'étais partout, t'étais dans toute la planète, quoi. Tu vois, je veux dire, tu partais dans toutes les mythologies, tous les machins. Et en fait, si tu veux, le tout n'était pas forcément automatiquement cohérent. Mais par contre, ce qui était absolument génial, c'était la prise en main de ces combattants-là. Je veux dire, tu joues pas du tout. Enfin, les gens me diront, c'est le cas avec, tu vois, avec Street Fighter aussi. Mais tu vois, par exemple, moi, une distinction entre Ken. Et comment il s'appelle, Ryu, elle est pas flagrante, en fait, pour moi. Tu vois ce que je veux dire, j'ai peut-être fait exprès, hein. Mais tu vois, je veux dire, c'est pas automatiquement, voilà. Moi, je vois plus facilement, en fait, la distinction avec une Chun-Li, par exemple. Mm-hmm. Mais là, en fait, j'avais l'impression que chaque combattant était vraiment différent et tu pouvais vraiment choisir ton préféré. Ben, moi, j'allais entre Maxime, entre Kilik, tu vois. Et enfin, Maxi, pardon. Ben, j'ai Maxime. le mec, Francis. Le Francis, tu vois. T'sais. Et en fait, si tu veux, et en fait, ce qui était absolument génial, c'était, voilà, cette espèce de fluidité. Je crois que c'est du 60 FPS, si je dis pas.
On est dans ce déjà à l'époque, quoi, c'était.
Hein, enfin, voilà, c'était assez fou, quoi. Et une espèce de fluidité.
Certains en rêvent aujourd'hui encore, tu sais.
Ouais, mais je crois que même les jeux récents le font. Mais je trouve qu'en fait, ils ont perdu un truc de. Comment dire. Tu vois, il y avait Soul Calibur 3 qui était cool. Il y avait un petit élément, en fait, de stratégie RPG, je crois, ouais. Entre les
après,
trucs.
Ils ont mis justement des modes histoire. Et
ouais, voilà, c'est ça qui était un peu rigolo, mais qui était fondamentalement, en fait, tu avais juste envie de taper sur les gens, quoi, tu vois. Donc, en fait, il y avait ce truc, en fait, que je trouvais absolument grisant. Et surtout, ce qui est normalement le passage de tout un bon jeu de combat, en fait. C'est-à-dire, tu arrives, tu peux jouer une partie. Tu sais, ouais, j'ai 15 minutes, je vais jouer une partie, il faut que j'aille bosser, tu vois. Et en fait, tu peux plus t'arrêter. Parce qu'en fait, tu reprends tout de suite. Putain, il m'a foutu hors du ring, ce fils de pute là. Attends, je vais le. Tu vois. Et en fait, si tu veux, t'avais tous ces trucs là, en fait, qui étaient vraiment, vraiment super kiffants. Alors, ce qui est marrant, c'est que je crois que c'est dans celui-là qu'ils ont intégré ça. Des combattants américains, je crois. Enfin, il y a Spawn.
Ah oui.
C'était suivant les consoles.
En fait, t'avais un par console. Ouais, t'avais sur PS2, c'était Eihachi, justement, de Tekken.
Ouais, c'est ça.
Donc sur Xbox, c'était Spawn, et sur GameCube, c'était Link. Ouais, c'est ça.
Et bon, c'était pas terrible, ça. C'était vraiment, en fait, moi j'avais joué un peu avec Spawn et avec bon, Yeyachi, après tu le connais, c'est un perso qui existe, mais je veux dire, c'est Spawn, il était tout pourri, ouais, tu vois. Je veux dire, d'ailleurs, ils en avaient fait un, je crois, c'est dans le 3 qu'ils ont intégré ce personnage-là, qui est mortel, en fait, si tu veux, même s'il a un nom vraiment à coucher dehors, c'était Zaza Lamel, je sais pas quoi, tu sais, moi je vois Zaza Gabor ou un truc comme ça, et là tu vois un grand black arriver comme avec une faux, il était incroyable et tout, et le mec s'appelle Zaza Lamel, quoi, tu vois, donc en fait, c'est voilà, quoi, mais franchement, voilà, c'est le 2 et le 3, vraiment, pour moi, c'est bon, mais le 1 aussi, hein, faut pas déconner, hein, mais c'est vraiment les pinacles du jeu de combat, en fait, si tu veux, dynamique, vénère, ou même si c'était pas ultra graphique comme un Mortal Kombat, ultra gore et tout ça, etc., tu sentais les coups, tu sentais les trucs, quoi. Et en fait, ça pouvait aller très très vite. Je me rappelle que, tu vois, je me rappelle, enfin, colis, que tu balançais un truc, tac tac tac, le mec il sortait dehors. Ton comment t'appelles ça, ton colis, je l'appelais colis. Ouais. C'est qui ouais, parce que, en fait, ça c'est vrai, c'est un de ces trucs. Bon, tu vois, moi je suis un peu un con, hein, tu vois, je veux dire, quand je joue au jeu, Kilik. Tu vois, en fait, je l'appelais Colic, forcément, tu vois, comme Maxi, je l'appelais Maxime, tu vois. C'est ce qu'on
va
tous savoir. Ça fait marrer, tu vois.
Donc
voilà, donc en fait, c'est sorti tout seul, là. D'un coup, ça fait marrer, Alain. D'un coup, je viens de me rendre compte que je l'ai fait sans même me rendre compte, quoi. Bref, tu vois. Donc,
c'est leur petit nom.
Donc, Kilik, tu vois, quand tu prenais Kilik et que tu mettais un coup, le mec, il partait vite dehors. Et la revanche, tu la veux tout de suite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y avait tout un truc de, comme ça, de système de d'énergie pure, si tu veux. Que tu retrouves finalement, en fait, ce qui est pour moi l'apanage des meilleurs jeux vidéo, et que tu retrouves finalement, quel que soit le genre, tu vois, dans très peu de jeux, en fait, où on parlait la dernière fois d'Hotline Miami, il y a cette logique-là, en fait, cette énergie, en fait, si tu veux, de je lâche pas la manette.
Et peut-être,
je veux vraiment, en fait, repartir au truc, quoi.
T'as un truc super intéressant, c'était un des premiers jeux à l'arme blanche, t'avais vraiment de la vraie esquive.
Ouais.
En fait, l'esquive, le fait de se mettre de côté, c'était une vraie. Tu crées des ouvertures, en fait, ce qui n'était pas forcément souvent le cas.
Et c'était quoi le bouton d'esquive?
C'était juste en décalant, en fait. En décalant,
ouais, c'est pour ça que t'es mort. Ouais. Toi, tu l'as jamais trouvé, ce bouton, je crois.
C'est ce que j'allais dire, l'esquive.
C'est pour ça que tu t'en rappelles pas. Parce qu'en fait, si tu te rappelles pas, parce que tu le connaissais pas.
Moi, j'ai jamais eu des. C'est peut-être pour ça que je joue mal, en fait. Parce que j'esquive jamais.
Soul Calibur 2, donc numéro 3 du top 5 de Stéphane Moïsakis des jeux d'arts martiaux. Ça donne envie. Ça se joue encore, d'ailleurs, ça. Soul Calibur 2, on peut y aller.
Oui,
d'accord. Alors, on va y retourner. Mon numéro 3, c'était donc Sleeping Dogs. Pour les bonnes raisons que j'ai citées, notamment un jeu inattendu, moi, qui m'a volé des dizaines d'heures de jeux et de tatanes.
Ah, moi, je l'ai platiné aussi. Hein.
Ton numéro 2, Pierre ?
Alors, mon numéro 2, alors, c'est un jeu qui va être...
Je ne connaissais pas.
Il y a une bonne raison, c'est qu'il n'est pas sorti en Europe.
D'accord, c'est pour ça, ouais. D'accord.
Ah,
ouais.
Il se la pète.
Alors, monsieur, j'ai joué au
j'ai vendu un rein.
Alors, comment ça s'appelle Comment ça s'appelle
Alors, c'est
Last Obi-Wan, à l'époque.
Quasiment. Ça s'appelle Last Ranker. En fait, c'est un jeu de Capcom. Qui est en fait une sorte de mélange. Alors, c'était l'époque où ils étaient encore hyper inventifs et où c'est un mélange entre du RPG et du jeu de baston. C'est un jeu qui est donc jamais sorti en Europe, qui a été traduit. Donc, en fait, si vous voulez jouer maintenant, ça a été traduit. On peut trouver justement un patch et le jeu d'origine. C'est un jeu PSP en plus, donc c'est vraiment pour le coup de niche. Donc, qui joue maintenant. Alors, encore une fois, si vous avez le jeu original, vous pouvez le télécharger. Si vous l'avez pas, bon, voilà, achetez-le. Même s'il est difficilement trouvable maintenant, je pense. Mais et donc l'idée, c'est on a un personnage dans une société un peu autocratique où en fait les gens sont classés en fonction de leurs compétences de combat. C'est-à-dire que quand on a, alors, je sais pas exactement comment se passe le classement, mais on a un chiffre et plus le chiffre est bas. Et plus en fait on est bas dans les classes sociales en fait. Et donc le personnage qu'on joue, c'est un personnage qui commence dans une tribu qui est hors de la grande ville du jeu et qui se dit en fait moi mon but dans la vie c'est de renverser un peu cet ordre établi et de monter justement dans les hautes sphères et de faire tomber ces gens-là pour une sorte d'égalité. Donc ça, forcément le cerveau va aller beaucoup plus loin après. Mais donc toute l'idée c'est de c'est un jeu de duel en fait. C'est un jeu où on va croiser juste plein de monde dans ces villes-là et dans les alentours. On va devoir tous les défier. Pour chaque fois gagner en rang en fait et je l'ai mis dedans parce que ça m'a vraiment rappelé tous ces films où en fait on a une armée de lieutenants avant d'arriver justement au maître du château ou au maître de la ville il y a vraiment cette dynamique là de combat avec n'importe qui n'importe où et où en fait tout le monde vit selon ses codes d'arts martiaux en fait et le gameplay est hyper intéressant parce que c'est tout un système de sacrifice de points d'action en fonction de certains coups. Et du ratio, est-ce que je tape plus ou moins d'affilée ce personnage-là, sachant qu'il va faire un contre. Donc, c'est vraiment le côté RPG, de planifier ses attaques et de planifier ses coups. Et en fait, plus ça va aller, et plus on va être dans des duels complètement spectaculaires et gigantesques. Et il y a quand même cette espèce d'appel au plaisir du combat, de voir chaque personne dans la rue et se dire, ah, est-ce que lui, il est au-dessus de moi, est-ce que je peux le battre ? Et vraiment, ce challenge constant, en fait. Je trouve que c'est vraiment dans cette logique de monter en grade, de monter en dan. Enfin voilà. Et c'est un jeu que je trouve assez brillant là-dessus. Et que je conseille vraiment parce que c'est un feeling que j'ai jamais vu dans aucun autre jeu depuis. Et il y a vraiment cette fierté de voir afficher son rang. Même si voilà, c'est pas un jeu multi, on est vraiment seul face à l'histoire. Mais on comprend la logique du héros et on comprend le plaisir qu'il y a en fait à battre d'autres personnages sur un même art martial que nous parce qu'on maîtrise plus en fait.
Last Ranker, le jeu que vous ne jouerez pas parce qu'il n'est pas disponible.
T'as dit date de quand ?
Il date, alors c'est époque PSP, donc je dirais, alors j'ai plus en tête la date exactement, mais c'est début 2000, un truc comme ça.
Ouais, ouais c'est ça.
Bah, PSP, c'est 2005. Hein. 2005
ouais, peut-être 2007, 2008, un truc comme ça. Ouais. Ouais.
Début 2000.
C'est dommage, ça donne envie ton histoire. Là. Non seulement c'est sur PSP, alors là tu nous ajoutes des obstacles. Là, effectivement, on est dans Dark Souls. Là. Bon, on va le trouver, ce jeu. On va le trouver. On va
ça se trouve. Ça se trouve.
Ah, ça se trouve, ça se trouve. Donc, parce qu'il est quand même numéro 2. Tu ne l'as pas placé numéro 2 pour rien. Ton numéro 2, Stéphane.
Tu m'as rappelé que j'avais Kung Fu Master.
Même date, 84. Hein,
pour une bonne raison. Hein,
même date
que 85. Oui, bon.
Quelques mois après. Ça va, on n'est pas là.
La technologie a évolué entre 84 et 85. Super machine d'arcade, tu vois. Mais vraiment en fait un truc tu vois
t'as craché de la pièce.
Ah putain ouais. Ah, mais moi tu sais en plus je suis ouais, ouais. Je alors, il faut savoir un truc, c'est que tu vois, bon, c'est peut-être un petit peu d'histoire en fait, donc on est né dans les années 70 nous hein,
c'est ça,
tu
c'est
vois
ça.
Et quand on était gamin en fait toutes ces machines d'arcade c'était surtout dans les cafés. dans les bristros. Si, enfin, je sais pas si c'était comme ça dans ton quartier, tu vois. Et en fait, en gros, bah, t'as pas le droit de rentrer dans les bistros, donc t'as pas le droit de jouer techniquement, en fait, si tu veux, quand t'as une dizaine
les
d'années.
Parents, quand
tu vois,
là, bah, ouais.
Sauf quand tes parents t'emmènent, tu vois. Moi, j'avais la chance, en fait, de ma mère est chypriote. Et à Chypre, ils ne se posent pas ces questions-là, ils s'en foutent. Donc en fait, tu peux rentrer n'importe où en fait,
attends,
pour aller jouer dans des salles d'arcade. Tu
vois,
voilà. Et en fait, du coup, bah, en fait, quand j'étais gamin, je pouvais jouer à tous ces jeux-là sans comment dire, être inquiété par tu vois, le mec derrière son bar là, qui te gueule dessus parce que tu n'es pas censé être là, mais qui te laisse quand même être là parce que tu as mis la pièce. Et tu l'enlèves, tu dis, mais j'ai encore 3 crédits alors que tu pipotais, tu remettais une pièce vite fait en loose day, quoi. Et les flics, en fait, qui rentrent des fois et qui te disaient, bon allez, mon gars, tu sors, il y a école. Donc le truc, si tu veux, c'est que donc, ces jeux-là, oui, effectivement, je les ai saignés, si tu veux, en machine d'arcade à proprement parler. Et ce qui était assez génial avec comment dire, Kung Fu Master, c'est que. Quand t'as grandi avec Bruce Lee, bah tu reconnaissais tout de suite le truc. Et là, ouais. Vraiment, en fait, je dis, tu vois, c'est-à-dire que Tekken, c'est arrivé bien plus tard, donc t'as le temps de comprendre qu'il y a un référencement méta, si tu veux. Mm. Mais quand t'es gamin, à cet âge-là, Kung Fu Master, c'est un film de Bruce Lee sur lequel tu peux mettre des coups de latte, en fait. Si tu veux. Donc pour toi, t'as l'impression que t'es vraiment un putain de génie des arts martiaux qui envoie des coups. Et d'ailleurs, en fait, si tu veux, le jeu, il était assez incroyable là-dessus parce que, en fait... tu posais la question de est-ce qu'on peut jouer encore à ces jeux-là en fait aujourd'hui, et moi je pense qu'en fait un Kung Fu Master, j'ai pas tenté le coup, mais je pense que tu peux le ressortir, le dynamiser un petit peu, un tout petit peu, mais en gardant les mêmes notions de gameplay, et il fonctionnerait parce que en fait il y a pareil une rapidité dans l'exécution des mouvements et trucs comme ça, c'est coup de pied, coup de poing, hein, ça n'allait pas beaucoup plus loin, hein, si tu veux, c'est vraiment machin, et d'ailleurs il y a plein de trucs, c'est rigolo, tu vois, enfin je veux dire, en gros, enfin, moi, je me posais des questions de comment c'était, parce qu'en fait, en gros, c'est la même logique que karatéka, si j'ai bien compris. J'ai pas joué à karatéka, par contre. Mais
que des semi-boss jusqu'au boss. Hein,
voilà, c'est ça. Mais tu grimpes
c'est
les étages.
De la mort, hein. Exactement.
Ça, tu grimpes les étages.
C'est le jeu de la mort.
Et en fait, si tu veux, ce qui était assez génial en grimpant les étages comme ça, en fait, si tu veux, c'est que bah, quand t'envoyais un coup de latte dans un ennemi, parce qu'ils arrivaient par vague de 3, 2, 3, etc., etc., t'en avais même qui t'envoyaient des couteaux, il fallait les éviter. Ce qui était très décevant, c'est que les couteaux ne se plantaient pas dans l'ennemi qui arrivait en face. Si tu veux, il passait à travers. Tu dis pourquoi lui il passe à travers et pas moi, tu vois, c'est pas cool, tu vois. Mais c'est vrai, tu vois, c'était un peu bizarre, quoi. Et
ouais, y avait alors que karatéka, c'est du one-to-one. Donc,
ouais,
là,
ah, non,
tu
non.
t'affrites, là, tu.
Ah non, là c'était vraiment en fait, des vagues d'ennemis, en fait.
Ouais,
et le truc, si tu veux, c'est que les vagues d'ennemis, bah, tu mettais tac, 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 3 coups,
d'accord,
en fait,
okay,
de pied, tu vois. Les mecs, enfin, giclaient, ils tombaient, si tu veux, de l'étage. Là, tu te dis, mais alors, je comprends pas, elle est où la caméra? Parce qu'en fait, si tu veux, il y a un mur, il n'y a pas de mur.
Ouais,
en fait,
ça,
c'est
ouais.
quoi cet immeuble, en fait, où les murs sont totalement ouverts, si tu veux? Et en fait, si tu veux, tu vois les mecs tomber, voilà, c'est ça. Il y a aussi un autre truc pas très cohérent, en fait, c'est qu'il y a des alors, je sais pas si c'est des gosses ou des nains qui t'attaquent, si tu veux. Et en fait, du coup, pourquoi, si tu veux?
Je pense que c'est une époque où tout était autorisé.
C'est surtout, bah, il faut un petit ennemi, il faut un grand ennemi, il faut quelqu'un qui a ta taille. Enfin, il a un bob, l'autre, il est, tu vois, enfin, il t'envoie des coups. Donc, en fait, t'as tout ce truc-là. Alors, aujourd'hui, avec le recul, tu regardes ça, tu te dis, voilà, bon, c'est
un peu
chelou, pas
quand
hyper
même, hein.
cohérent, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est dans lequel, je sais pas si c'est dans celui-là où t'as carrément un oiseau qui t'attaque aussi et tu lui mets un nion, en fait. Mais c'est peut-être pas dans celui-là, c'est peut-être dans un autre où je fantasme, alors je sais pas.
Mais en tout cas, pour l'avoir essayé récemment, juste pour la culture,
ouais.
effectivement, le coup des petits personnages, je me suis posé la question, c'est des enfants ou c'est des gens de petite taille dans
j'ai envie de croire que c'est des nains.
Bah,
tu vois, mais tu te poses.
Dans les années 80, les nains étaient, il me semble, plus présents.
Dans la culture
au cinéma et aussi dans
oui,
le cinéma d'action,
ah oui, tu veux dire,
etc. Ouais. Donc ils étaient utilisés aujourd'hui, ça ferait hurler. Voilà, mais il me semble hein, de souvenir.
Peut-être Wang Wang. Tu connais Wang Wang, c'est le petit lilliputien qui jouait James Bond.
Oui, aussi.
Dans
le cinéma d'action, voilà, c'est ça. Je pense
non, mais c'est peut-être lui dans Kung Fu Master.
Ah oui,
là, ils étaient. On sait rien, c'est peut-être
leur utilisé.
Allez, Kung Fu Master, on vous invite à y rejouer.
Voilà,
c'est la même sensation.
Mais mine de rien, en fait, voilà, je pense que les sensations. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc, en fait, où quand tu envoyais un coup, tu avais le cri de Bruce Lee. Et du coup, putain, mais tu disais, t'es Bruce Lee. Vraiment, quand tu regardes le regard, quand t'as 10 ans, du truc avec la crudité, on va dire, si tu veux, l'aspect presque cinéma naïf, tu vois, l'aspect naïf, l'aspect film en noir et blanc, l'arroseur arrosé, on va dire, des débuts du jeu vidéo, t'avais un truc, en fait, qui fonctionnait totalement dans les salles d'arcade, dans le truc. Et mine de rien, les salles d'arcade, pour moi, c'est comme les cinémas de quartier, en fait. Il y a un truc, en fait, si tu veux, il y a une ambiance de bar, de... en tout cas en France, tu vois, il y a une ambiance de bar, de truc avec la clope qui pue, avec tu vois, tout ce truc-là, qui fait que c'est pas incohérent. C'est pas incohérent de se retrouver, en fait, à la fois avec les films d'arts martiaux qui cartonnaient dans les quartiers un peu, si tu veux, populaux, quoi, et comment dire, un Kung Fu Master
qui se retrouve dans le bar.
Qui se retrouve dans le bar, en fait, avec les beaufs à côté qui sont en train de faire leur tiercé, tu vois. Mm-hmm. Donc le truc, si tu veux, c'est.
Au petit blanc à 10
heures. Je suis très, très schématique. Ne vous énervez pas, je suis vraiment. Voilà.
Tu tires sur le client de 10 heures du PMU, c'est un peu moche.
Non, mais bah, tu sais, bon, c'est, voilà, mais, tu sais, non, mais je dis ça parce que c'est une ambiance que j'ai bien connue, tu vois. Donc en fait, c'est surtout ça le truc, c'est que en fait, il y avait ce truc comme ça où pourquoi tu te rends pas compte, t'es totalement projeté. C'est Last Action Hero. T'es projeté dans ton jeu. T'es là en train de te dire putain, mais je suis dedans, chez moi, Bruce Lee, je suis en train de les éclater, tu vois. Je suis trop balèze, tu vois. Et comment dire, alors que évidemment, quand tu regardes le jeu aujourd'hui, il est hyper cru, mais en fait. Pourquoi il est dans cette position-là ? Pourquoi il est dans mon top 5 ? C'est pour ces raisons-là. C'est pour ce côté un peu genre, quand t'arrives à te projeter que t'y crois et quand t'as 10 ans, ça marche, tu vois. Le jeu, il était incroyable, quoi.
Kung Fu Master, donc ton numéro 2. Bon, mon numéro 2, c'est Mortal Kombat, mais le premier du nom, donc 92. Alors, celui-là, je ne l'ai pas suriné côté salle d'arcade. Ça aurait été plutôt Double Dragon pour l'ambiance fumée froide.
Ouais, pareil.
Les vieux cendriers, Ricard qui pue. Enfin bon, ouais, vous connaissez. Je vous ne fais pas la rengaine. Vous connaissez si vous êtes passé dans un PMU. Alors il y a plus l'odeur de la clopasse.
C'est fini.
Mais dehors, ça fume pas mal quand même.
Maintenant,
ça vient plus du dehors.
T'as l'odeur caramel des vapoteuses maintenant. C'est.
Oui, c'est ça. C'est pas la même. Donc Mortal Kombat. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque. Évidemment, le jeu, je vous conseillerais plus Mortal Kombat X, évidemment, comme Stéphane, mais je le mets en deuxième parce que c'était quand même en 92, c'était quand même furieux, la violence, le sang, le fait que tu pouvais ou non le mettre, faire gicler, les fatalités qu'il fallait avoir. Merci à la presse magazine d'ailleurs de l'époque qui mettait les fatalités qu'on pouvait choper. Mais bon, il n'empêche, il fallait des heures et des heures d'entraînement. Moi, j'en avais quelques-unes complètement, je les avais parfaitement intégrées. C'était vraiment génial, dégueulasse. Enfin bon, il y avait tout et ça faisait un rappel au cinéma gore, moi que j'aimais beaucoup. Il y avait une espèce de mélange de tout, donc de cinéma de genre, de karaté, le cinéma gore, moi que j'adorais, et puis le jeu vidéo, voilà, parce que c'était notre média, parce que c'était chouette, parce que c'était cool, et le côté aussi acteur, hein, parce que là on n'est pas du tout dans Street Fighter 2 où il y a une, comment dire, on enlève un peu la violence, hein, on la coupe, on se sépare avec ce côté très animé, quasiment dessin animé. Là, ils ont voulu jouer la carte du réalisme. Alors évidemment, ça a mal vieilli, mais il y a quand même cette notion-là. Et à l'époque, c'était vraiment dégueulasse. Enfin, voilà, et c'était parfaitement jouissif pour un gamin, c'est-à-dire de pouvoir jouer à ça, quoi.
T'avais joué alors c'est un peu plus tard, hein, mais t'avais joué à leur Beat Them All Mortal Kombat.
Oui.
Shaolin Monks.
Non.
Shaolin Monks. Tu veux du Z, tu vois, franchement, il est formidable. Voilà, il a vieilli, évidemment, hein, c'était un jeu PS2. Et en fait, si tu veux, moi, ça m'a fait penser au cinéma, tu sais, genre La Reine des Crocodiles, les trucs indonésiens, là, complètement taré, où tu coupes les mecs en deux, là, si tu veux, tu sais, des trucs comme ça. Et c'était incroyable, quoi, tu vois, c'était une super série Z de luxe, quoi. T'avais que Liu Kang et je sais plus c'était qui l'autre perso.
C'est plus du tout. Parce que c'est ça qu'ils ont fait plusieurs jeux comme ça avec un de leurs héros. Enfin, il y en avait un avec Sub-Zero aussi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, si tu veux, c'était vraiment en fait, c'était un beat them all, tu vois, à l'ancienne. Tu vois, dire, vraiment où tu te baladais dans le truc et t'envoyais des lattes, tu découpais des mecs avec un sabre et tout ça, etc. C'était chambé.
Bah, j'en mets là aussi mon Mortal Kombat, bon, maintenant qui est un peu passé. Mais à l'époque, quand même, mais c'était vraiment scandale. L'interdiction du sang. Enfin, ça avait vraiment fait. Parce que c'est les gosses qui voulaient y jouer. Hein.
Ouais,
c'est pas les adultes. Hein.
Et les persos étaient pseudo-réalistes.
Oui, c'est vrai.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une prise d'acteur. Là, ouais, je reviens à
ça. D'ailleurs, je vous conseille de regarder les.
C'est du FMV, quoi.
Oui, non, c'est clair. Mais c'est vraiment ça.
Ouais, c'est ça.
Et c'était un mélange entre ça et l'ératoscopie. Justement.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et d'ailleurs, je vous conseille les making-of d'époque. Ça peut se trouver sur. Alors, je sais plus si c'est le 2 ou le 3. En fait, on voit en fait le tournage effectivement des acteurs.
De tête,
Et c'est vrai que les moments où les acteurs en fait simulent un coup de pied sauté, en fait, ils sont juste vraiment perchés sur un bloc vert en simulant le coup de pied. Où en fait, vraiment, il n'y a aucune expression sur leur visage. Et juste de voir ça et de l'imaginer dans le jeu après la place de Sub-Zero ou de Scorpion, c'est incroyable.
Voilà, donc c'est des jeux incroyables, mais c'est des jeux aussi qui là pour le coup, je sais pas si ça se rejoue. Oui, parce que de toute façon, le versus fighting généralement. On ne sait pas trop mal fait, ça se rejoue, mais il n'y a pas le côté animé. Là. Alors, on n'a pas mis Street Fighter 2 dans nos top 5, ça aurait pu. Évidemment,
un top 5 jeu de baston en vrai. Hein.
En même temps, je pense qu'on fera un top 5 versus fighting, c'est une des propositions possibles. Et évidemment, là, d'un coup, il s'imposerait. Mais Street Fighter 2, c'était un petit c'était le côté, ouais, c'est un peu pour les gosses, tu vois, ça redevenait Mortal Kombat, alors qu'il était bien moins précis, hein, franchement,
bah,
mieux vaut un Street Fighter 2, enfin l'autre c'est une calamité, mais la violence, quoi.
Honnêtement, tu le revois aujourd'hui, c'est quand même aussi pour les gosses, hein.
De
Mortal Kombat.
Bien sûr, recul, bien sûr, hein, vois, bien sûr que c'est pour les gosses.
Finaux,
mais hein. Avec les codes des films interdits au moins de 18 ans, ou 16 ans, ou bref, c'était plutôt au moins de 18 ans à cette époque. Donc Mortal Kombat 92, moi c'est mon deuxième, on passe au final, au top one, ton numéro 1,
alors,
le jeu des jeux d'arts martiaux.
J'ai un peu triché, mais moins qu'avec Tenchu. En fait là, c'est Bushido Blade, en fait, qui est un jeu sur PS1. Qui est un jeu de sabre.
Alors, disponible, hein, rassure-nous, parce que
oui, qui est disponible. Le 2, c'est qu'au Japon, mais le premier,
d'accord,
c'est en.
Mais au moins le 1, d'accord.
Et alors, en fait, c'est, je l'ai pris parce que c'est, pour le coup, j'ai hésité avec ce qu'on parlait de samouraï, alors là, pour le coup, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas un jeu de samouraï, c'est un jeu de sabre. C'est vraiment la technique du sabre appliquée à plein de personnages différents. Donc, en fait, chacun va avoir une arme différente. Alors, c'est majoritairement du sabre. On va avoir de la naginata, donc de la lance. On va avoir, alors le boss de fin a un flingue, parce que pourquoi pas, mais globalement, tout le reste du temps, c'est vraiment juste des...
Tu l'en as acheté, hein.
C'est ça.
C'est pas de chance.
Il était malin. Et vraiment, tout le reste du temps, c'est de l'arme blanche, et c'est un jeu qui a c'est un des premiers jeux à faire ça, qui a la touche mortelle, c'est-à-dire que on peut toucher une seule fois le personnage d'en face et le tuer. C'est-à-dire, si on le touche en pleine tête, avec un coup de sabre, on le tue directement. Et il y a une notion de blessure, on peut taper dans un bras... Du coup, le bras gauche ne peut plus servir. Donc, par exemple, un personnage avec une lance va être handicapé directement. On peut taper dans la jambe pour empêcher le personnage de faire un pas en arrière. Il y a tout un côté comme ça, stratégie, de permettre d'analyser le combattant en face et d'essayer, en fait, en suivant son arme et sa posture, parce qu'il y a aussi un choix de posture différent, de justement l'handicaper plus ou moins, ou de le tuer d'un coup s'il n'est pas assez attentif.
Attends, c'est du versus fighting. C'est quoi,
c'est du versus
fighting.
Donc en fait, il y avait.
On est bien, parce que c'est vrai qu'on est on navigue entre le monde ouvert, les beat'em all, oui. Et
c'est
le versus fighting.
Ouais.
Mais là, on est plus dans le versus fighting. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Donc c'est en duel, effectivement.
En duel, voilà, pardon.
On va essayer d'affaiblir. On peut affaiblir en tout cas son adversaire.
C'est ça. Et donc il y a une partie scénaristique où là, on va justement enchaîner les combats jusqu'au boss avec son flingue, justement. Il y a aussi dans le 2, je crois, dans le 1, je suis pas sûr, mais dans le 2, il y a du vrai versus. Et donc il y a vraiment ce côté-là de respect des codes du Kenjutsu, donc vraiment de l'art du sabre. Mmh. Et, qui...
Alors, on s'est renseigné en faisant ce podcast, ce qui rentre effectivement dans les arts martiaux,
oui.
Même si nous, on a plus tendu du côté à main nue. Quoi, voilà,
oui.
Hein, donc plutôt arts martiaux à main nue, en délaissant un tout petit peu, même si on a à l'intérieur de ce top 5, ouais. Le côté arme blanche.
C'est qu'en fait, je l'ai... Bah, j'ai hésité justement pour l'intégration de ce jeu-là, mais je me suis dit que comme c'était pas vraiment, enfin, c'est très spécifique, quoi. C'est vraiment juste l'art du sabre de base. C'est pas l'art du sabre appliqué à une caste ou à d'autres types de combattants. C'est vraiment l'art du sabre pur. Et pour le coup, je l'ai vraiment vécu comme un art martial dans le sens où c'est vraiment les mêmes codes, c'est les mêmes entraînements, c'est la même rigueur par rapport à l'apprentissage d'un style de combat. Et je trouve que ce jeu le rend bien parce que pour moi c'est vraiment l'équivalent d'un Sifu avec des sabres, en fait. C'est-à-dire que c'est très difficile parce qu'on peut mourir d'un coup, et pour le coup, quand on meurt, on recommence directement. C'est pas, on va pas reprendre le combat, c'est mort direct. Et il y a vraiment ce côté de d'apprentissage à la dure et de compréhension de la distance, du recul, du moment d'attaque, de l'ouverture. Et c'est un jeu qui est extrêmement complexe, surtout pour l'époque, qui a été plus ou moins, enfin, où sa mémoire reste encore dans des jeux comme Kengo, par exemple, sur PS2, si je ne dis pas de bêtises, oui, à l'époque. Et après, du coup, les Way of Samurai, tout ça, mais qui sont plus narratifs. Mais c'est vraiment cette optique-là de vraiment donner la quintessence pure de cet art-là, de faire comprendre, même aux gens qui ne sont pas initiés, ce que c'est que l'art de l'épée, que le Kenjutsu. Et pour le coup, c'est un jeu qui est assez unique par rapport à ça, ouais.
Le réalisme, hein, côté Pierre, hein, donc le choix de Bushido Blade, mais ça donne très envie parce que le one shot, ça c'est vachement intéressant parce que d'un coup là, bah, ça rigole déjà moins. Et puis le côté affaiblir l'adversaire, ce qui existe sous la version du stun, on va dire un petit peu,
ouais, ça,
mais c'est pas vraiment l'affaiblir. Enfin, c'est l'affaiblir un temps, en tout cas une période, mais là, ça va quand même beaucoup plus loin. C'est assez intéressant, en tout cas, je trouve, en mécanique de jeu, ça mériterait d'être revu, ouais, ou repris, ou de nouveau visible dans un jeu de versus fighting, d'ailleurs, ou autre, ou un beat'em all. Ton number one, cher Stéphane, il est temps de te dévoiler.
Julien Verneau va être content, je sais qu'il
va. Ah, moi aussi, parce que du coup, on va en parler tous les deux. Alors,
on
toi, tu
beaucoup l'ami Julien, là, mais à croire qu'il fait des arts martiaux.
On va lui demander, tiens.
Mais non, c'est Shenmue 2. Alors, Shenmue 2, pour un truc assez global, hein, en fait, fondamentalement, qui est.
Bon, moi, c'est Shenmue, donc on va en parler tous les deux. Donc, voilà, mon number one, c'est Shenmue, et Shenmue 2 pour toi. Bon, voilà, de toute façon.
Après, c'est une question.
99-2001, notre façon, pour les dates de sortie.
C'est dans la même, un peu dans la même logique. Et puis surtout, c'est une question d'ambiance. Le premier, c'est au Japon. Le deuxième, c'est Hong Kong. Il y a vraiment une, comment dire, voilà. Mais pourquoi Shenmue 2? Parce que, en fait, à l'époque, c'était un peu les proto-monde ouvert, si tu veux. Il y avait vraiment, en fait, la tentative, en fait, de créer quelque chose, une sociabilité, en fait, dans une histoire, si tu veux, un aspect quotidien. Avec, il y avait d'ailleurs un, tu vois, c'était une histoire simple. Hein, c'était un personnage qui venait, qui cherchait le tueur, il voulait venger son père, il cherchait le tueur. Les gens peut-être qui nous écoutent connaissent la problématique de Shenmue. C'est des jeux qui ont coûté très cher à l'époque, hein, sur Dreamcast, qui se sont plantés, qui ont planté la console aussi, hein, d'ailleurs.
En partie, on va dire,
si tu veux. Mais c'est des budgets énormes. Hein, c'était des budgets de 70 millions d'euros, je crois, à l'époque. Mm-hmm. Hein, et en fait, ça a un petit peu enterré la carrière de Yu Suzuki, en fait, qui était... notamment le créateur de Virtua Fighter, on en a parlé, quoi, qui est quelqu'un qui est vraiment, en fait, pour le coup, versé dans les arts martiaux, c'est-à-dire qu'il cherchait, en fait, si tu veux, cette, non pas forcément, encore une fois, les coups à apprendre, etc., etc., mais la philosophie qui était derrière. Et ça s'en ressent un petit peu dans Virtua Fighter, même si, voilà, moi, c'est des jeux techniques, et moi, j'ai plus de mal à jouer à ça. J'aime bien l'idée qu'en fait, il ait fait un jeu autour de cette philosophie-là, en fait, finalement. C'est ça que je trouve vraiment formidable, en fait, avec Shenmue, quoi. Tout en l'intégrant, en fait, dans un, comment dire, dans une histoire, en fait, qui est liée à un espèce de monde, en fait, que tu traverses de manière en explorant, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on joue à un monde ouvert, c'est un tout petit monde ouvert, hein, Shenmue, il faut le dire, hein, quand tu compares à ce qui existe aujourd'hui, c'est vraiment tout petit en termes de place. Mais par contre, en fait, il est grand parce qu'en fait, on te dit rien. Donc tu dois vraiment explorer, aller chercher, tu passes du temps, en fait, si tu veux aller parler avec des gens.
Et puis c'est
avec,
explorable.
Oui, c'est
parce
ça.
Que c'est vraiment un monde explorable où les portes s'ouvrent, quoi. Hein. C'est pas un faux monde ouvert où la moitié, les trois quarts, les 99% des portes sont fermées. Tu fais bon, bah d'accord. Okay,
non, c'était ça.
C'est qu'on peut aller.
Tu dois parler avec des gens, discuter avec des gens qui vont en fait te donner des pistes à explorer pour avancer dans ton intrigue, avancer
dans l'histoire,
dans dans l'histoire et dans la découverte de cette ville, en fait, là, en l'occurrence, moi, là, sur Shenmue 2, c'est Hong Kong. Mais il y avait encore une fois, c'est un proto monde ouvert. Alors, je resitue, hein, c'était même, je crois, un tout petit peu après GTA 3, en fait. Donc, en fait, il y a vraiment, il y avait par exemple les minigames, en fait, mais qui étaient des trucs, en fait, que tu trouvais dedans, dans le monde. T'avais des petits jeux de billes, en fait, si tu veux, des trucs comme ça. T'avais qu'est-ce que tu avais d'autre comme
t'avais les métiers, en plus tu pouvais faire des métiers différents aussi.
Ouais, c'est ça, t'avais
des jeux de Yu Suzuki, t'avais pas Space Harrier,
exactement. Tu pouvais, voilà, des trucs en fait qui ont été repris par Yakuza par exemple, ce genre de choses et tout, etc., dans la formule, quoi. Et ouais, c'est vrai qu'il y a les Space Harrier, c'est vrai, c'était sympa.
Bien sûr, il y avait la naissance des QTE.
Alors voilà, ça c'est un autre élément, c'est-à-dire que bon, on a beaucoup glossé sur les QTE, il faut avouer que c'est quand même pas le meilleur système de jeu, mais en l'occurrence, je trouve qu'à l'époque où ils ont été intégrés dans Shenmue, en tout cas dans Shenmue 2, clairement, j'ai plus de souvenirs de Shenmue 2 que du premier. Le truc avec Shenmue 2, c'est qu'en fait, comme de toute façon le jeu va dans une narration très soutenue, c'est-à-dire pas, encore une fois, pas à la façon, il y a beaucoup de cinématiques, mais pas à la façon automatiquement de ce que j'entends par là, c'est vraiment dans l'exploration, quoi. Moi, ils m'ont beaucoup moins dérangé, en fait. Il y a 2-3 moments où tu te plantes, hein, mais en fait, ils fonctionnaient dans une espèce de grande scène d'action qui était assez prenante, en fait, dans la façon dont elles étaient présentées, quoi. Donc du coup, tu avais une grosse dynamique de mise en scène, une grosse dynamique de ça. Et effectivement, des fois, tu pouvais te planter. Ah putain, j'ai pas appuyé sur X, j'ai appuyé sur Y. Bon, tu vois, je me suis pris un coup de latte, mais tu recommençais très vite, tout de suite. Et disons que ce que eux arrivaient à faire, la plupart des jeux n'ont pas forcément, tu vois, ils l'ont vraiment utilisé comme un système plutôt comme un élément narratif, en fait, dans lequel tu vas jouer, quoi. Ouais. Et du coup, il y a une façon d'aborder ça sous un autre prisme, en fait, qui le rendait un petit peu unique et un peu différent. ce qui fonctionnait bien, quoi. Et puis, il y a ce truc, en fait, tout bêtement, de comment dire... Moi, mes passages préférés, en fait, si tu veux, dans Shenmue 2, c'est d'aller apprendre les mouvements d'arts martiaux avec un vieux maître chinois dans un jardin, en fait, si tu veux, public, quoi. Et le mec, en fait, te dispense une philosophie. Et il y avait quelque chose d'assez touchant, en fait, d'assez fonctionnel, assez émouvant, parce que, justement... Il y avait en fait tu sentais que c'était ce qu'il voulait faire vraiment, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que les moments intimistes que finalement, à l'époque, en tout cas à ma connaissance, le jeu vidéo te proposait très rarement.
Très rare. Aujourd'hui, c'est pas devenu un lieu commun, mais on a plus souvent déjà cette intimité. Ouais. Et d'ailleurs, elle est largement traitée dans des jeux, notamment indé, pas que, mais notamment indé. Effectivement, à l'époque, c'est un ovni. Hein. Enfin, je dis 99 et 2001, même 2001. Qu'est-ce que c'est que ce truc, ça l'est toujours. D'ailleurs, ça l'est toujours. En numéro un, mais ça reste toujours un élément. On peut travailler, quoi. Travailler dans un jeu vidéo. Enfin, monsieur, vous n'y pensez pas. Vous êtes fou, tu vois. Mais non, mais le mec, il te fait bosser pour aller. Tu fais
porter des caisses, tu vois. Enfin voilà. Mais t'avais ce truc en fait de te dire en gros, si tu veux, tu sais quoi, je vais recréer le quotidien. Et en fait, si tu veux, à travers la façon de recréer ce quotidien, tu vas être immergé dans mon monde. Et mine de rien, à l'époque, c'était assez... Bon, je pense que tu avais des RPG qui le faisaient un petit peu, des trucs comme ça, mais c'était assez, comment dire... bon, c'était déjà distinctif parce que c'était un jeu en 3D. C'était assez... C'était pas encore le cheval de bataille d'un GTA. C'est-à-dire, GTA 3, c'était pas tout à fait ça. GTA 3, il y avait vraiment des fetch quests, t'allais chercher des trucs et tout. Ouais. Là, il y avait ça, il y avait cette logique-là. Il y avait une ville immersive, hein, à l'époque, il faut être honnête. Elle était... Bon, aujourd'hui, tu y joues, elle est vide, hein, mais à l'époque, elle était assez immersive et tout. Mais là, justement, en fait, elle était immersive. Enfin, dans Shenmue, c'est immersif parce qu'il y a tous ces personnages un peu truculents que tu vas rencontrer, que tu vas, voilà, tu vois, une grosse matrone, tu vois, un vieux sage, tu vois. Et tous ces trucs, en fait, font que bah, t'es totalement pris dans le truc. T'avais vraiment l'impression, moi, je trouve, de jouer à quelque chose de totalement nouveau à l'époque. Ouais. Je fais la distinction parce qu'il y a Shenmue 3 qui est sorti depuis. Et en fait, c'est un crève-cœur, en fait, de lancer un truc comme Shenmue 3 parce qu'en fait, t'as l'impression que le temps s'est totalement arrêté. Et t'attends d'un mec comme Yu Suzuki, bon, évidemment, il n'a plus les moyens, il n'a pas les mêmes moyens qu'à cette époque-là. Quoi.
Oui, qui a inventé pendant 20 ans, enfin, 10-20 ans, qui a inventé, enfin, en gros, l'aura de Sega, c'est quand même beaucoup lui. Quoi.
Voilà, exactement.
C'est Hang-On, c'est Space Harrier, c'est l'âge d'or des salles d'arcade. Hein.
Ouais,
donc, Virtua Fighter, donc, qui se retrouve intégré lui-même dans Shenmue et Shenmue 2. Oui, bah oui, il a pas les moyens trouvé les moyens. Mais en tout cas, il a trouvé les moyens d'en faire un 3, ce qui est déjà assez exceptionnel pour une saga qui s'est littéralement.
Mais qui a littéralement 20 ans de retard, en fait. Oui. C'est ça le truc, en fait. C'est
oui,
quand
mais qui
n'est
pas une réussite financière, c'est-à-dire que vraiment qu'a foiré, là.
Ah oui, non, mais déjà voilà. Mais pour une raison très simple, c'est que je pense en fait qu'il est aussi, tributaire de ce que représente, ce qu'est censé représenter Yu Suzuki, c'est-à-dire dans l'industrie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quelqu'un qui a toujours fait évoluer le médium. Là, en gros, si tu veux, tu te retrouves avec un jeu totalement passéiste. Et en fait, moi, j'ai à peine joué, en fait. Très honnêtement, j'ai joué 3-4 heures, j'ai fait allez, salut. J'ai mis de côté parce que c'est pas possible en fait. Shenmue 3, c'est trop, ça fait trop mal en fait de jouer à ça. Mais voilà, ce qui est assez étonnant, c'est que pour peu qu'on se remette, parce que c'est des jeux qui ont vieilli, hein, les Shenmue, pour peu qu'on arrive à se remettre, ils sont disponibles hein, maintenant en fait sur les consoles actuelles et tout. La magie fonctionne quand même parce que tu reviens un petit peu en arrière, tu dis oui, d'accord, effectivement, on constate l'importance en fait. Et quelque part, si tu prends le temps de jouer à un jeu qui ne te donne pas en fait toutes les clés tout de suite. Tu t'es immergé en fait dans le truc et ça fonctionne vraiment bien. Et avec, encore une fois, là, parce qu'on a parlé beaucoup de tout ce qu'il y a autour, mais avec l'idée, en fait, si tu veux, que ton personnage va apprendre à se battre vraiment pour trouver l'assassin de son père, si tu veux, pour être au niveau de ça. Alors, c'est une histoire à rallonge, hein, parce qu'on n'y est pas. Hein, à la fin du 2, il y avait un cliffhanger, fameux cliffhanger.
Ça devait faire 11 chapitres. On arrive à la fin du 6 ou 7e chapitre, je crois, à la fin de Shenmue 2. Mais le combat a son importance. C'est le combat gardé vraiment une part essentielle dans cette aventure.
Ouais, bah, ce qu'on peut, à la base, c'est vraiment... Enfin, le projet de base, c'est trouver intégrer à Virtua Fighter un élément narratif. C'est vraiment ça, c'est le combat au centre. Et après, derrière, se greffe justement tout le côté narratif.
Oui, alors que maintenant, on a plutôt un regard inverse. C'est-à-dire qu'il a inversé la donne. C'était le monde. Le combat fait partie du monde, mais ce n'est qu'une partie intégrante du monde. Et même s'il est essentiel, il fait jouer avec. Voilà. Donc Shenmue 2, bah, pour nous, mais je pense que c'est cohérent. Parce que, bon, voilà. Et effectivement, pour toi, Pierre, je retrouve Bushido Blade. Donc, mais c'est quand même un retour au réalisme, quand même. Parce que voilà, des jeux comme Shenmue, si on dit un descendant... Si on donne des descendants de monde ouvert, moi je dirais plutôt Red Dead 2, dans le sens organique, enfin vivant, où il y a quand même un enjeu réaliste qui s'invite quelque part. Alors évidemment, il faut pas, si vous jouez à Shenmue, vous n'allez pas voir Red Dead 2. Hein. C'est pas,
non,
que,
non,
c'est pas
sûr,
ce que je
c'est
dis.
Pas ça.
Mais c'est dans l'esprit, ouais, exactement. Ouais, dans l'esprit, ça, c'est quand même une date parce que je reviens, on finira par Julien Hiverneau qui lui disait, c'est des jeux qui se referont peut-être jamais ou rarement. Mais il parlait comme ça de Red Dead 2, il parlait comme ça de Shenmue, et c'est vrai que c'est pas des anomalies, mais c'est des raretés.
Il y a un questionnement en fait, c'est-à-dire
à ce prix-là,
le, je pense
à,
que,
à ce budget-là.
Après, aujourd'hui, il y a, après, il y a un questionnement en fait qui se pose quand même, mais c'est mine de rien. On va dans aujourd'hui, on te parle de métaverse, on te parle de trucs comme ça. C'est censé être des mondes immersifs. Ces mondes-là, en fait, tu peux pas, ça peut pas marcher que par le réseau social. Non. C'est-à-dire, il y a forcément, à un moment donné, il y a des règles de jeux vidéo qui vont s'intégrer en fait, si tu veux, même s'ils s'en rendent pas forcément compte, même si les gens, on va dire les gens qui ne jouent pas. De se rendre pas compte en arrivant dans le métaverse, tu vois, pour l'instant c'est ridicule, on voit les trucs des carrefours et tout ça, bon voilà, mais tu vois, je veux dire, le truc c'est que pour peu que ça soit poussé, pour peu que ça soit, je veux dire, comment dire, développé à mort, il y aura forcément des règles d'immersion du jeu vidéo qui vont venir, et il y aura forcément, à mon avis, le truc avec le monde ouvert, il y en aura des mondes ouverts, il y en a plein, mais je veux dire, qui vont aller dans cette direction-là, c'est sur ces trucs-là que les innovations vont arriver.
Mon, oui, je comprends.
Mais, oui, et puis là, si tu veux,
le fait d'imposer le réalisme
voilà, c'est ça.
Dans un monde de jeu, en tout cas.
Dans un monde virtuel, en
ouais,
fait.
Mais virtuel. C'est, de toute façon, ils sont forcés de base parce qu'ils utilisent un médium qu'eux utilisent déjà quand ils parlent de gamification de leur, de leur solution, de ouais. leur site. De leur... Et donc, en fait, quand tu utilises en plus ce médium-là, tu es forcément obligé d'y mettre des éléments de jeux vidéo. Ils peuvent pas se dire que le public qui vise, qui est un public globalement de jeux vidéo, qui est habitué à ce médium-là, tu peux pas leur enlever en fait des bases et des codes.
On question, est quand même c'est... loin des coups de tatane.
Voilà, c'est ça. J'allais dire, c'est la question, c'est est-ce que tu vas mettre des coups de tatane à tes amis sur Facebook?
Où est le grand écart sur Vandamme? Où est le grand écart de Vandamme? Où est le grand écart de Vandamme? Il a disparu.
La nouvelle version le plus
dans la nouvelle. Bon, on va s'arrêter là. Il y avait l'idée aussi de vous dire les jeux à éviter, mais ça va être en une phrase, ton jeu à éviter.
Alors moi, c'est Star Wars, Master of Terrascasi.
J'avais demandé si tu allais le mettre, tu vois, Star Wars, tu vas
voir. Qu'est-ce que c'est que ce dossier?
Alors, le Terrascasi, c'est un art martial dans le lore de Star Wars, ouais. qui est d'ailleurs utilisé dans cet excellent film qui est Solo. Et donc, en fait, c'est un jeu qui est basé là-dessus.
Et que le meilleur, quoi. Tu sais que les meilleurs films,
bien sûr,
les jeux de tous les temps.
Les références. Et donc, c'est un jeu qui est... atroce, où en fait, du coup, tous les personnages qui font le Terrascasi sont complètement désarmés face à des Jedi qui ont le sabre laser ou des gens qui ont des flingues. Donc, littéralement, si on
c'est
joue un personnage.
Mais c'est tu ça, gagnes, c'est ça, en fait. Tu joues,
c'est
tu
réaliste, en fait. C'est vrai, c'est ça la vraie question.
C'est ça le réalité d'un sabre laser. Tu gagnes. Ok, alors comment tu dis ça? Star Wars Masters of Terrascasi. Ok, sublime. C'est magnifique, ça. Ouais, ça me donne
très
envie.
Très connu
ça
pour être un gros nanar.
Ouais, c'est
hein,
un
ça me donne presque envie d'y jouer. Toi, t'as un nanar dans le coin?
Oui, oui, bien sûr. Attends, alors, moi, c'est un jeu qui existe, mais qui n'existe pas.
Ouais, alors.
Si vous allez sur archive.org, vous tapez Steven Seagal. Ouais. Et vous allez trouver en fait la petite démo de 10 minutes qui a jamais été terminée en fait, si tu veux, sur un jeu en fait avec Steven Seagal dans le rôle, hein, toi, qui joue
là, tu
joues
du
Steven,
rêve,
tu vois.
Là on voilà. est très loin de Shenmue, ça me
voilà,
plaît
Steven,
beaucoup.
Donc évidemment dans ce jeu il est fin.
Ouais, bien sûr, évidemment.
Il est agile, tu
vois. Il est souple.
Et il sent le poisson. Et en fait le truc c'est que donc du coup en fait en gros c'est un jeu, c'est jouable. Alors c'est jouable de comment t'appelles ça. C'est injouable, hein. Je veux dire, voilà, mais en fait, en gros, t'as les mouvements de Steven, tu vois. Alors, c'est une démo.
Et comme Jet Li, t'as la.
Ouais. En moins bien encore.
Ah oui, ah oui d'accord, ah oui, ok.
Non,
d'accord,
mais t'as ce truc, en fait, de voilà. Mais en fait, c'est. Forcément, en fait, dans les années, c'était un jeu qui devait se faire dans les années 90, je crois, il devait sortir sur Nintendo. Il y a eu un jeu Jackie Chan pur et dur, en fait, qui est sorti. Je l'ai jamais essayé d'ailleurs, en fait, sur. Mais je crois que
sur
Nintendo, non.
C'était Bruce Lee. Où tu revivais, en fait, toute sa carrière.
Ah non, il y a un jeu de Jackie Chan aussi.
Ah, d'accord,
il y a un jeu de Jackie Chan, je crois. Et en fait, mais que j'ai jamais fait. Et en gros, si tu veux, il y a un fantasme en fait d'aller voir effectivement au-delà de, c'est-à-dire des gens qu'on cite en fait dans Tekken ou dans Soul Calibur ou dans peu importe. Il y a cette idée ou dans Mortal Kombat, j'allais dire plutôt. Il y a cette idée en fait, si tu veux, que ces artistes d'arts martiaux, bah en fait, en gros, on aimerait les voir en fait dans un jeu vidéo pour les jouer. T'as envie d'être Steven Seagal, tu vois, forcément, tu vois. Forcément, ouais. Tu as envie d'être beau, d'avoir un catogan.
Certaines personnes,
tu vois.
Ça dépend quand, mais oui.
Charisme de pervers narcissique total, ouais. Tu vois. Donc c'est voilà. Et malheureusement, ce jeu n'est vraiment sorti. D'après ce que j'ai compris, parce que cette démo. Cette build, je sais pas ce que c'est exactement.
C'est build,
en fait, est apparu, mais bien des années après, il y a quelqu'un qui l'a mis sur Internet.
Qu'il a lâché, qu'il l'avait chez lui et qu'il l'a lâché. Ouais.
Voilà, c'est ça. C'est un petit peu jouable si tu arrives à faire marcher le truc et tout ça, etc., etc. Des gens mieux versés dans la technique,
toi,
moi, y arriverai, quoi, tu vois. Mais alors, c'est nul en fait. Si tu veux, ça se passe dans des usines. T'as des espèces de trucs où tu dois sauter par-dessus des obstacles. En fait, tu tombes tout le temps dedans. Enfin, tu vois. Genre moi, le peu que j'ai joué, c'est t'as pas du tout l'impression d'être aussi majestueux et gracieux que Steven Seagal, quoi. Tu vois, okay, voilà.
D'antan,
tu vois, voilà. Tu vois. Non, mais okay, même aujourd'hui, d'accord. Steven n'a pas changé.
C'est les jeux à éviter qu'il ne faut pas éviter. Donc, il faut aller sur archive.org.
En même temps, il faut arriver à le trouver.
Ouais, là, ouais, il faut voilà, quoi. Moi, j'ai mis Enter the Matrix quand même parce que oui.
C'est vrai que c'était pourri, ça.
Ah, bah, ça, c'était pourri. Alors, non. Alors, au niveau du transmédia, parce que les sœurs Wachowski ont toujours eu un regard assez intéressant, d'ailleurs, sur le fait de comment on développe l'univers. Ouais. OK. D'ailleurs, ça se passe quelques temps avant Matrix Reloaded. Il y a un peu d'explication. Si je regarde juste le terme narratif, enfin, le côté narratif, ça raconte des choses avant, etc. C'était très attendu. C'était l'inverse de Sleeping Dogs où on a voit le truc arriver, ouais, bon, bof, machin. Et puis, ah ouais, tiens, c'est pas mal. Enter the Matrix, c'est très attendu. C'est ultra hypé au début des années 2000. On attend que ça. Matrix, c'est juste la révolution cinématographique. Et là, tu fais la douche froide. C'est même pas la douche froide, c'est les glaçons dans la gueule, les parpaings de glace dans la tronche.
Tu sais qui voulait à la base pour un jeu Matrix ?
Non.
Les Kojima.
Ils en ont discuté
avec lui.
Je pense que de toute façon, il y a de l'ambition, encore une fois, sur le plan narratif, tout ce qu'ils font, les bandes dessinées, les animés, les comics, etc. Tout ça, ça a un sens incroyable. Enfin, vraiment, il y a un vrai travail autour de Matrix. Mais là, le problème, c'est qu'ils se sont affrontés à comment on fait un jeu vidéo. Enfin, c'est-à-dire, voilà, et les sensations, et on n'a parlé que de ça depuis le début de ce podcast, les sensations des arts martiaux, et là, bon, ben. Et c'était horrible. Donc n'y jouez pas. Ou alors voilà, c'est ça, en guise de punition.
Et ils étaient partis. Ils étaient partis sur l'idée que la déception, c'est que tu jouais pas Neo, tu vois. Sauf que deux ans après, ils ont sorti un jeu qui s'appelait Matrix Path of Neo.
Oui,
c'est aussi pourri.
C'est aussi pourri. Non, non.
Alors que tu joues pour le coup, tu joues vraiment la trilogie et tout, quoi. Tu vois. Mais bon.
Ouais. Non. Vraiment, à éviter Enter the Matrix. Merci les amis.
Merci
Jean. Vous pouvez lâcher évidemment vos likes, mais surtout en commentaire, vous pouvez lâcher votre top 5 si vous avez eu des idées. On est passé évidemment les jeux d'arts martiaux. Vous avez vu, ça va très loin, du monde ouvert, en passant par le beat'em all et en retournant versus fighting. Et encore, on n'a pas tout fait, donc voilà, ça prend un spectre assez large de l'histoire du jeu vidéo. J'ai l'impression que ça épouse quand même, quelque part, cette histoire aussi du jeu vidéo. Donc, vous lâchez vos commentaires, et nous, on se retrouve la prochaine fois pour parler jeux vidéo. Salut tout le monde!